prochaine.
Bienvenue sur le podcast. Le podcast de Trouver Objet Caché. www.tentacules.net. Le site francophone dédié au jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. À vous les poulpes.
Von Gluey, les poulpes. Von Gluey. Je suis mauve. J'ai une petite extinction de voix. Je voulais vous dire que les rumeurs sur mes portes-jartelles sont parfaitement fondées. Et l'approche de 2012 signe la fin de plusieurs projets. Nous n'éditerons pas les masques de Nirvana.
Excusez-moi.
Vous êtes gentil, là, vous êtes dans une propriété privée, là, la Toc Cave, c'est pas une maison de passe, hein. C'est pas un hôtel du Nord, hein. Vous êtes gentil. Bon, Von Gluey les poulpettes et Von Gluey les poulpes.
C'est lui qui m'a demandé de faire
ça. Je vous assure. Comme vous pouvez le constater, pour ce nouveau poulcast, alors je sais pas si vous avez écouté les autres, mais normalement, à l'heure où nous parlons, dans ce micro, enfin on a chacun le nôtre, hein, parce que sinon c'est pas propre de s'échanger les micros, mais on doit être au troisième poulcast sur les masques de Narratotep, et comme vous êtes tous super forts en sudoku, en même temps non, ça n'a aucun rapport, non, comme vous êtes tous très intelligents, vous savez qu'il y a, nous sommes cinq dans l'équipe à avoir travaillé sur les masques, et dans les poulcasts précédents, il n'y avait que 4 personnes. Votre serviteur, Carter, Yoda et De Marini. Et oui, car pour ce podcast spécial Encore Masque, nous avons le plaisir d'accueillir Steve.
Bonjour les poules, bonjour.
J'étais sûr que ça allait pas durer longtemps avec cette voix.
Bonne année.
Donc Steve, de toute façon on va te présenter. Le but de ce podcast, c'est de parler des masques et c'est de parler aussi un peu de ton activité et de ton activité holistique et internetique, numérique et digitale, même dirons-nous à notre époque.
Exactement.
Ouais, exactement. Donc juste un petit plan pour vous donner des billes, sachant qu'on risque de pas forcément le suivre. Donc on va parler un peu de toi Steve, parce que je suis pas sûr que tout le monde te connaisse sous ce pseudo là, mais oui. Les gens te connaîtront certainement par les endroits où tu officies, on va dire. Non, c'est pas une église. J'aime bien le terme officier, ça fait chic, ça fait riche. Voilà, exactement. Donc on va parler de ton activité, de ton blog, et puis donc tout ce qui concerne l'ambiance JDR. Un sujet aussi annexe au masque, avant d'attaquer la partie masque, nous parlerons de l'importance du jeu en campagne. À notre époque, bande de petits cons qui écoutaient ce podcast où une partie de jeu de rôle doit durer 2 heures et doit se faire sur un iPad ou toute autre tablette d'ailleurs. On va vous parler du jeu en campagne, pourquoi il faut jouer en campagne. Et pourquoi les deux peuvent cohabiter et qu'il ne faut pas mettre au rebut les campagnes ou voir ça comme des objets de collection qu'on range dans une étagère. Surtout que les masques qui vont arriver en 2012 ne seront absolument pas mis dans une étagère mais qui seront tout de suite fonctionnels. Et donc après on vous parlera des masques. Donc voilà les 4 parties. Hein. Donc on va débuter par ta présentation Steve, en quelques mots, ta présentation et ton activité holistique et digitale.
Oui, je m'appelle Steve et beaucoup de gens, enfin disons, si des gens me connaissent en tout cas, ça sera sûrement à travers le site que j'essaye de maintenir entre vents et marées depuis un peu plus de 10 ans. Les ambiances de jeux de rôle.
Ah ouais, 10 ans déjà quand même.
Donc c'est un blog, enfin à l'époque un site web qui est devenu un blog qui...
Oui, un site qui avait osé quand même les icônes en néon bleu.
Exactement. qui a changé plusieurs fois de look, mais ça c'est pas le fond du problème, même si ça m'a valu un volume de mails et de messages assez intéressants.
C'est comme ça qu'on rencontre son public.
Moi, je préférais en noir, c'est pas assez dark, il n'y a pas assez de dragons. Enfin bon, peu importe. Le site que vous trouverez sur agidr.org.
Ouais, de toute façon, je remettrai le lien, il doit s'afficher en bas de votre podcast. Non, il s'affichera sur le site, ouais, il n'y a pas de souci.
Ouais, et donc sur lequel j'essaye d'aborder un certain nombre de de techniques ou de savoir-faire qui ont toutes pour but de d'aider les gens, d'aider les rôlistes à ressentir des émotions pendant les parties. Parce que pour moi, les émotions...
Oui. C'est intéressant, tu attaques par émotion alors que tu vas parler, alors que tu parles souvent de choses assez concrètes, de papier, tout ça. Donc le but c'est vraiment, voilà, comment tu définirais l'aide de jeu autour d'une table de jeu. Tu définirais ça comment en termes de...
Alors il y a plusieurs choses. Hein. Déjà c'est vrai que on peut se dire voilà quand on a une approche pragmatique des choses, bah on n'est pas dans l'émotionnel, on n'est pas vraiment dans le ressenti. C'est pas entièrement vrai. Je pense que dans une partie de jeu de rôle, lorsqu'on souhaite faire partager des émotions et en ressentir soi-même, parce que le meneur de jeu aussi en ressent, on a plusieurs techniques pour y arriver. Plusieurs voies. On a la voie du système. Un bon système de jeu peut aider les gens à rentrer dans une immersion qui est propice à ressentir des émotions. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi...
Là, tu parles par exemple, excuse-moi, tu parles par exemple de la santé mentale, des choses comme ça, quoi.
Exactement. Ouais. Le fait dans un D'accord. système de jeu d'avoir des règles qui soient très adaptées à l'ambiance qu'on souhaite y retrouver, ouais. Permet de ressentir des émotions qui sont en rapport, par exemple, comme tu disais, la santé mentale dans le Toulouse, crée une sorte, tout un panel d'émotions dans le jeu, que ça soit la détresse, l'angoisse, la frustration, ou même... le fait d'être déstabilisé, qui a aussi d'autres émotions, c'est une ficelle du système de jeu que je trouve intéressante. Et sur mon site, j'essaye de passer, de présenter plusieurs types de solutions ou de savoir-faire qui permettent de ressentir des émotions. Alors je m'attache, moi, pas spécifiquement au système, c'est-à-dire que je vais pas m'amuser, parce que tout simplement c'est une question de goût, hein. Je vais pas m'amuser à proposer des systèmes pour générer des hobbits crédibles ou pour lancer des sorts à deux mains, je laisse ce soin à d'autres, je dis c'est une autre chose, hein, tout dépend du jeu ou du système. Je peux
ouais.
dire, oui, même si je t'entends ricaner.
Ah non, absolument pas, non, non.
disons, moi, mon pari, du moins plutôt ce qui m'éclate, c'est de proposer aux gens d'autres techniques et d'autres choses qui favorisent l'immersion et qui favorisent l'apparition des émotions.
C'est du générique cross-system, c'est-à-dire que pour être clair, ça va de la musique. T'as pas mal de graphiques aussi, de tout le côté graphique, les petites vidéos anciennes, les images, ce genre de choses.
Effectivement, il y a plusieurs sessions. Déjà, il y a un certain nombre de conseils de savoir-faire que je pose pas, bien sûr, en référence ultime, mais c'est simplement un peu un carnet de vieux routards que je soumets aux gens. Voilà, dites-moi que c'est de la merde ou dites-moi que c'est... Mais en tout cas, faites-en quelque chose.
Mais dites-moi quelque chose.
dites rien, mais faites un jouet.
Non, c'est vrai que c'est pas... les conseils que tu donnes, ce ne sont pas des... Je dirais, c'est pas pontifical. Tu donnes pas là, tu prêches pas forcément la parole,
non,
mais tu prêches une bonne parole qui peut être utilisée.
Ouais, c'est vraiment l'idée de balancer plein d'idées, même des fois contradictoires, histoire que chacun pioche ce qu'il veut. Je parle de manière, par exemple, d'aborder les descriptions, de gérer l'ambiance lumineuse, les éclairages à une table de jeu ou de quelques petits trucs, quelques petites observations psychologiques que j'ai posées, la manière de gérer le son, enfin plein.
Voilà, c'est en plus c'est des choses qui, même à notre époque, sont toujours intéressantes de rappeler. Mais sachant qu'aussi, toi, t'as quand même une spécialité, c'est ce qu'on appelle en anglais les props.
Les props, oh yeah.
Alors what the fuck is a props?
Alors props, littéralement, enfin je dirais un accessoire qu'on va pouvoir utiliser dans le jeu. Alors le props, ça fait partie de la catégorie aide de jeu, mais le jeu n'est pas forcément un props. Alors je pense qu'on est au pied de la demande de définition. Qu'est-ce qu'une aide de jeu?
Ouais.
Je vais procéder, je vais pas vraiment définir, hein, parce que je veux pas faire du théorique. Hein.
C'est con, j'ai pas le truc de Maître Capello, la petite musique. oui.
Mais en tout cas, dans le descriptif des aides de jeu, qu'est-ce qu'on y retrouve? Alors moi, de mon côté, J'ai un peu recherché, je me suis un peu posé la question, mais qu'est-ce que c'est finalement qu'une aide de jeu?
Ouais. Est-ce que c'est, comme beaucoup le disent, est-ce que c'est, par exemple, alors tu vas me dire c'est peut-être que ça n'est pas, mais est-ce que c'est un palliatif pour les MJ qui sont mauvais en description?
Alors.
Oui.
Ils sont vachement délicieux, ce que tu viens de me dire.
Il y en a beaucoup qui disent ça, ils disent que, il y en a beaucoup qui disent que mettre de la musique dans une partie, c'est parce que tu sais pas mettre l'ambiance, donc tu mets de la zik et...
C'est des choses que les gens disent, effectivement. ça peut être perçu comme un palliatif, mais je pense que c'est une mauvaise appréhension du composant. Pour revenir aux différents types d'aides de jeu que j'ai pu identifier, mais après on développera cette question. Il y a des aides de jeu qui sont orientées système de jeu, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, par exemple. C'est vraiment des composants qui donnent une assistance au meneur de jeu ou au gardien pour gérer son système. Par exemple, un générateur de personnages comme Biaki, ou de nouvelles règles sur comment gérer la santé mentale, les courses-poursuites en automobile ou autre.
Ouais, c'est des feuilles récapitulatives pour les persos autour de la table, d'accord, des choses comme ça, ouais.
Ouais, qui s'appliquent vraiment au système. Ensuite, j'ai trouvé qu'il y avait deux autres familles, les aides de jeu qui sont orientées plutôt background. Donc là, on parle plutôt de références historiques, d'études détaillées, par exemple, comment fonctionnaient les lampes électriques au début du XXe siècle.
Ah ouais, tout à fait.
À quoi ressemblaient les appareils photos. Enfin, là, on est vraiment dans une optique, dans une recherche d'approfondissement de background ou de recherche, comment dire, en recherche de la proximité avec un canon du jeu auquel on fait jouer. Par exemple, si on est à Star Wars, on va parler du montage de sabre laser, on va faire
s'intéresser à l'astrogation pour
tout à fait, comment ça peut fonctionner. Alors c'est pas forcément des choses qui sont réalistes, mais c'est des choses qui servent le canon des jeux.
Alors ça c'est c'est intéressant que la remarque que tu viens de faire sur le fait que ce soit pas forcément réaliste, parce que c'est vrai que déjà c'est des choses qui peuvent être délicates à trouver, notamment pour Star Wars, parce que ça n'existe pas. Donc être réaliste sur un truc et c'est vrai que c'est
quand même.
Mais c'est vrai que par exemple c'était c'est une, parmi les premières questions qu'on se pose, c'est par exemple à l'appel de Toulou, on éclaire toujours une scène avec une lampe torche, et je suis persuadé qu'il y a pas mal de gardiens, moi le premier, qui pendant des années c'est fait une image distante, un peu vague, qui va de la lampe à huile en passant par la lampe torche type Maglite ou un truc comme ça, la X-Files. Et c'est vrai que ce genre d'aide de jeu, ça peut donner tout de suite un plus au niveau jeu, parce que voilà, si c'est plus du côté maglite et que du côté lampe à huile, ben bon, on peut s'en servir comme une matraque, on sait comment ça s'oriente et tout ça. Donc ouais, ce genre d'aide de jeu un peu historique ou d'époque, on va dire entre guillemets, c'est toujours intéressant. Donc ça, c'était la deuxième deuxième type.
Et enfin, on a un dernier type d'aide de jeu, du moins parmi celles que j'ai trouvées, c'est les aides de jeu qui sont plus orientées cette fois-ci vers l'intrigue. Donc vraiment vers la fiction qu'on est en train de construire, vers le scénario qu'on est en train de faire jouer. Et là, c'est la référence typique du vieux parchemin froissé, remet à ses joueurs l'air très fier, bien l'illustration qui représente un PNJ, ou même un plan de lieu qui est habilement dévoilé. On m'a déjà remis à une table une cassette audio à écouter. Qui composait vraiment un accessoire, une aide de jeu qui servait cette fois-ci l'intrigue.
Voilà, ce qu'il faut voir, c'est que moi j'étais le premier à avoir un PC sur une table de jeu. Moi je suis contre, mais par contre c'est vrai qu'en se disant maintenant de plus en plus avec les tablettes, ou même moi je me rappelle d'un scénar Gaslight où le maître avait enregistré un passage qu'on devait entendre en écoutant à une porte. Il avait trafiqué la voix, il avait obscurci tout ça. Et bon, il avait mis ça sur un lecteur MP3, et voilà, il faut bien être conscient que même un truc super technologique de maintenant peut bien aider s'il est utilisé à bon escient. Je dirais, par exemple, si vous décrivez une ville, et si vous avez une image sur votre tablette et vous la montrez à vos joueurs rapidement en disant voilà, ça ressemble un peu à ça, pour qu'ils se donnent une idée globale du truc. Moi je dirais au contraire, utilisons la technologie moderne. De toute façon, avec TOC on est sur internet, donc ça serait un peu ça serait un peu gonflé de dire qu'il faut rester avec du papier et crayon et tout ça. Donc ok, c'est la troisième J'irais la troisième catégorie, c'est vraiment, j'irais que c'est l'aide de jeu qui est un peu même, voire extraite de l'aventure, quoi, du
Oui,
livre.
exactement. C'est vraiment, comment dire, c'est un peu le point de rencontre entre le joueur et le personnage. C'est-à-dire que on remet à ces joueurs, donc des personnes physiques, un accessoire, un paquet d'allumettes
Au hasard.
au hasard, qui va en même, qui va, comment dire, que leur joueur est censé aussi recevoir, au moins à l'approchant.
Alors, tu sais, c'est vrai que c'est une vraie jonction.
Ouais, il y a vraiment une jonction, c'est mignon. On est vraiment,
Non, mais
c'est
ouais, c'est vrai que c'est, on a l'impression
poétique.
la façon dont tu le dis, c'est vrai que non, c'est, il faut vraiment se représenter ça comme ça, c'est très intéressant, c'est de se dire, c'est un peu de l'univers du personnage qui arrive dans l'univers du joueur, quoi.
Oui, effectivement, et ça favorise l'immersion, puisque on a ce point de jonction, c'est vraiment la
Ce
définition.
sont deux choses que les deux personnes vont voir en même temps, quoi.
Ouais,
Ah, c'est intéressant cette vision-là, ouais.
c'est vrai.
Ah, ouais, c'est pas mal.
Bien. Et pour revenir aux aides de jeu,
Ouais.
j'ai l'impression que chaque type d'aide de jeu, donc les aides de jeu système, les aides de jeu background, les aides de jeu intrigue, ont un peu tous, disons, leur destination ou leur but. Les aides de jeu orientées système, sont plutôt axées vers, je dirais, une recherche d'efficacité ou une
Ouais.
recherche de pertinence dans les mécanismes. Les aides de jeu orientées background, eux, sont plutôt, servent plutôt la recherche de la crédibilité. Donc, est-ce que ce que tu vas présenter, à tes joueurs, ou est-ce que ce que les joueurs vont décrire va être crédible dans le jeu dans lequel on joue? Et
Ouais.
les aides de jeu qui sont orientées intrigue, elles, recherchent un peu plus, on va dire, ben, l'histoire, la manière dont elle est construite, voire même à créer des points de repère, tu vois, pour pas oublier une
Ouais.
piste, par exemple, ou pour remarquer que le serviteur avec son fez rouge a une tête particulièrement fourbe sur l'illustration, et donc c'est probablement le traître.
Ce qui fait que finalement, dans l'ordre dans lequel tu les as cités, c'est un ordre qui est inverse à leur importance au niveau du jeu.
Alors, je n'ai pas spécifiquement réfléchi, mais en tout cas, c'est comme ça que ça me parle, effectivement. Pour
Parce que
moi,
c'est vrai que enfin, l'aide de jeu liée au scénario, c'est quand même pour moi l'aide de jeu assez principale. D'ailleurs, j'ai pensé à ça, tu mettrais dans quoi les aides de type musique, lumière
alors, à vrai dire, j'ai pas spécifiquement pensé parce que je considérais pas à la base que c'était une aide de jeu. Mais maintenant que tu
D'accord.
poses la question, pourquoi pas? Finalement, on n'a pas donné de définition d'aide de jeu.
Non.
Pour moi, c'était plutôt du ressort de la technique, tu vois,
Ouais.
du savoir-faire, je dirais. Mais quelque part, une piste audio peut constituer une aide de jeu, hein, comme tu le disais tout à l'heure, l'enregistrement ou autre.
Ouais, rassemble.
Mais je voyais plutôt ça du côté des techniques,
Ouais.
de ce qu'on peut développer pendant le jeu, pour essayer de favoriser l'immersion sans que ça soit vraiment perceptible, tu vois. Enfin, disons,
Ouais, puis c'est pas lié au scénario en lui-même ou à la campagne,
c'est des choses qui s'effacent, tu vois, l'éclairage d'une pièce, la musique que tu entends. Ça, j'ai vachement surpris, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, même s'ils sont réceptifs à la musique, ne sont pas capables de l'identifier ensuite. Par exemple, j'avais un générique de fin que j'avais utilisé pendant toute une campagne, et avec un groupe de joueurs, et à la fin, je leur avais fait une petite compilation perso.
Les meilleurs moments.
Ouais, c'est ça. Et ils ont tous halluciné. Mais c'était quoi ces musiques? Il y en a qui me disaient quelque chose, mais je vois pas. Bah, espèce de banane, c'est ce que t'as fait. Et en fait,
Mais
dans tous les jeux.
c'est un peu le principe qu'on a quand même dans un film,
Oui.
parce que dans un bon film où il y a une bonne, bon, je vais arriver, une bande bonne origi bande originale, on a du mal à la détailler, à s'en, enfin, on s'en rappellera quand on l'écoutera, mais si c'est vraiment bien lié au film, c'est vrai, ça fait corps avec le truc et on s'y
Complètement.
attache pas complètement.
Ouais, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis justement sur cet esprit de corps, parce que justement, le tout doit être finalement homogène. Finalement, on a une espèce enfin, une partie de jeu de rôle qui est non pas un ensemble de choses qui sont superposées de manière artificielle, mais qui font vraiment corps, comme tu dis.
Et alors, je sais pas si tu me rejoindras là-dessus, mais c'est pour ça qu'on tendance toujours à conseiller de prendre une ou deux bandes originales au
Oui.
maximum pour finalement tourner la plupart du temps sur ces morceaux-là, même tout doucement en fond. C'est vrai que moi j'avais le travers auparavant, c'était de vraiment boucler sur des tonnes de morceaux, et finalement les joueurs le percevaient un peu comme des ruptures.
Ouais.
Et alors que finalement, si bah, vous mettez toujours du Ennio Morricone ou des choses comme ça, ou alors toujours de la
Fonctionner par
musique de
auteur.
jeux vidéo.
Fonctionner par exemple par auteur ou par thème, comme tu le dis.
Voilà. Et finalement, ça permet à ce que on reste plus dans le, j'irais dans la continuité et qu'on s'identifie plus à la campagne. C'est vrai que, bah, comme je l'avais déjà dit, mais parfois il y a même des morceaux, c'est la Madeleine de Proust, c'est-à-dire qu'on l'entend. Et on se rappelle de la campagne aussitôt, on se dit, ah oui, ça c'est la musique des masques du Naratotep.
Ouais, il y a des
Mais.
mauvaises associations parfois.
D'accord. Et. Donc toi, tu couvres avec ton site puis ton blog, tu couvres un peu tous ces domaines-là.
Ben, j'essaye. C'est toujours un peu une bouteille à la mer, dans le sens où j'estime pas moi seul être représentatif de toutes les aides de jeu ou de toutes les techniques qui peuvent circuler. C'est un peu un appel du pied aux autres rôlistes. Qui auraient aussi envie de faire partager leur
Leur
savoir-faire.
savoir-faire,
Mais en attendant des hypothétiques participations, bah, j'avance de mon côté. Et notamment, je me suis donné récemment l'objectif d'une sorte de théorisation de savoir-faire. Je me suis rendu compte avec Facebook.
Oui, une des dernières orientations que j'ai essayé de donner sur le site, c'est de procéder à une sorte de théorisation de tous les liens intéressants qu'on peut trouver sur Internet pour le jeu de rôle, pour préparer les parties, pour animer. Parce que je m'étais rendu compte en allant traîner mes guêtres sur Facebook ou Twitter ou d'autres réseaux sociaux, que des gens s'échangeaient plein d'adresses qui étaient super intéressantes,
Ah oui.
même aussi sur les forums, hein. Mais problème, ces adresses ont tendance à se perdre. C'est-à-dire que on voit comment fonctionne Facebook, souvent je te le disais tout à l'heure, on trouve une super adresse, on se dit ah c'est chouette, j'y reviendrai plus tard, et puis quand on y revient, ah qui avait posté le lien, qui
On se
avait
retrouve perdu dans un monceau de j'ai bouffé des pâtes ce midi et j'ai fait
foutu.
pipi de travers et on a pu retrouver. Ouais, mais t'as des techniques pour justement garder ce genre de choses ou.
Eh ben écoute, c'est l'huile de coude en fait. Ouais, c'est vraiment l'huile de coude. C'est-à-dire que je me suis rendu compte dans la panique. Parfois, juste au début d'une partie, ah oui, mais j'ai un lien qui va me sauver et je n'arrivais pas à le retrouver. Alors je me suis rendu compte que c'était important en fait de centraliser ces liens dans un endroit. Alors j'ai déjà vu pas mal de forums, voire même de sites où des gens ont commencé le truc, mais tu vois le bruit que génère un forum avec le flou de tout le
Ouais.
reste. Donc je me suis dit,
Arriver à faire le tri, ouais, entre
ouais.
la bonne information, faut pas qu'elle soit redondante, et puis faut en plus qu'elle soit à peu près stable, qu'elle disparaisse pas dans les limbes aussitôt.
Le problème de la continuité et de la pérennité de l'info, c'est aussi quelque chose qu'on a connu toi et moi, je pense, puisqu'on est on est un peu sur la toile depuis pas mal d'années. On a connu l'époque, je crois que c'était début des années 90, où il y avait vraiment un foisonnement de sites internet sur le jeu de rôle. Il y avait toutes les sauces, d'ailleurs, qui est souvent illustré sur les produits de ces sites.
Il fut un temps où je fus critique de sites internet.
Bon vieux temps.
Mais c'est vrai qu'en et en plus dans ces sites-là, alors bon, pas partout, mais dans ces sites-là, on pouvait retrouver des choses vraiment très intéressantes. Et c'est vrai qu'on se dit a posteriori, ah merde, il y avait un site avec des aides de jeu médiéval fantastique ou des aides de jeu pour l'appel. Mais et puis alors soit un option la plus courante, il a complètement disparu. T'arrives sur une page, ce site n'existe plus. Ou alors même l'hébergeur parfois n'existe plus. Et puis enfin en plus de ça, il y a des sites où ça a évolué ou ce genre de choses et finalement les gens ont fait du ménage et t'as plus l'info d'origine. C'est vrai que c'est un peu ce qu'on s'est donné aussi sur Tok, c'est de se on conserve toujours tout quoi.
Oui, c'est
Même
vraiment
le.
une sorte de pérennité qui me semble importante aujourd'hui.
Alors c'est vrai que je sais pas si tu fais aussi le fait de sauvegarder assez fréquemment. Alors on rentre pas dans l'illégal, hein, mais disons que moi quand je trouve un bon article, la plupart du temps c'est vrai que ça m'arrive, notamment ça marche très bien avec Google Chrome, où je l'exporte au format PDF quoi. J'enregistre en PDF et puis je le cale dans un coin. En plus la plupart du temps il sauvegarde les liens intersites, donc ce qui fait que dans votre PDF vous aurez toujours des liens vers les sites externes que ça référence. Mais c'est vrai que c'est une vraie galère de finalement d'avoir un endroit où tout stocker, Et puis que ce soit un peu mis à jour, que ce soit tagué pour retrouver facilement, parce qu'il ne faut pas non plus que ça devienne un monceau inextricable de liens en tout genre.
Ouais, donc sur le site, j'ai essayé de me proposer en tout cas des liens, c'est le premier temps, parce qu'on sait que la conservation, comme tu disais tout à l'heure, la conservation des sources directement pose un problème de droit, mais au moins des liens vers les endroits les plus intéressants, les plus symboliques, dans lesquels on peut trouver du matos qu'on peut utiliser directement, des outils en ligne, des générateurs de son, enfin plein de choses qui peuvent aider
Alors,
les gens, même des tutoriels ou des références historiques. Donc là, on est vraiment dans l'aide de jeu qui est à la fois background et à la fois intrigue.
ça va être intéressant. À la débeauté, là, comme ça, tu as des. C'est quoi tes grosses références sur lesquelles tu vas chercher, que ce soit des sites, des portails généralistes ou des choses comme ça? C'est quoi les gros trucs sur lesquels tu vas?
Alors, pour trouver, tu veux dire pour trouver les liens, pour trouver les références?
Ouais, voilà, pour.
Alors,
Ouais.
il y a deux optiques. Il y a l'optique conservation. Donc, quand je trouve sur le net un lien intéressant qui est référencé par quelqu'un, ou quand je tombe dessus par hasard, je le mets dans ma boîte à malice. Et un peu plus tard, je vais le référencer sur le site. Et la
Ouais.
deuxième chose, c'est quand je vais chercher activement quelque chose. Ce qui m'est arrivé par exemple avec le générateur de pistes son pour Star Wars, ou le générateur de générique de début, tu sais, que j'utilisais aussi dans mes parties. Et dans ce cas-là, je vais vraiment à la recherche de l'info. Il n'y a pas de secret, c'est 9 fois sur 10 sur le web anglophone qu'on trouve. Et là, c'est vraiment un travail de recherche qui peut parfois être très.
Alors,
C'est-à-dire, en fait.
mon idée, c'était plus de s'orienter vers ça. C'est quoi je dirais, tes points d'entrée sur le web pour rechercher des aides de jeu, pour rechercher des ressources?
Alors très basiquement Google, mais
Ouais.
Google avec tous ses outils. C'est-à-dire qu'il y a Google pour la mamie du Cantal, mais il y a aussi Google un peu plus évolué dans lequel on peut faire des recherches très serrées avec des créneaux temporels. On peut faire des recherches à l'identique sur des mots qui sont ciblés. On peut aussi rechercher par image, et ça c'est souvent une très bonne piste lorsqu'on veut dénicher une information, qu'elle soit textuelle ou graphique. Google et tous ces outils sont vraiment quelque chose de très bon pour rechercher ça. Ensuite, on peut aussi, toujours dans le Google, faire du recherche en Google Group, qui va rechercher, qui va scanner principalement les blogs, les forums, les commentaires. Et derrière, un peu en off, comme je travaille un peu dans un secteur qui fait de la veille, de la recherche, de l'investigation. Enfin, j'ai aussi accès à des outils un peu plus pro et qui peuvent cibler de manière très très précise les choses. Mais rien qu'avec
D'accord.
Google, en général, on peut balayer le web
Et
intelligent.
c'est vrai que ça demande avant tout de bien cibler la recherche. Moi, je me suis pas mal servi de Flickr pour les images. Et c'est vrai que, ben, déjà, il faut connaître l'anglais, hein, ça c'est clair. Hein, si vous tapez les mots en français, vous n'allez pas récupérer grand-chose. Et après, je sais pas, moi, pour avoir des images, par exemple, de Boston, mais dans les années 20. Alors, au début, je tapais 1920 Boston, et bon, après vous faites Street View, et puis ce genre de choses. Alors, à la limite, j'ai fait aussi une recherche, par exemple, je faisais des recherches avec Postcard dedans, comme ça me remontait tous les gens qui avaient digitalisé des cartes postales, et finalement ça faisait une très bonne source, parce que sinon on peut retrouver les photos de mamie en 1910 en bikini sexe sur la plage. Parce que je regardais aussi un peu de mon côté. C'est vrai que Google, parce que en plus, ce que les gens n'utilisent pas forcément, c'est la partie gauche, ce que tu disais, c'est recherche temporelle, savoir l'actualité, si c'est des trucs récents ou pas. Ça vous permet de pas toujours tomber, parce que si vous faites une recherche classique sur Google, vous tomberez toujours sur les mêmes liens. Alors que la recherche avec un créneau de temps va vous donner l'actualité plus récente. Moi, j'avoue que j'ai une horde de flux RSS.
Bienvenue au club.
Voilà, toujours Google, donc Google Reader, qui a une appli sur Android, je suis sûr, sur iPhone, je sais pas. Je sais pas s'ils ont la version sur iPhone. Mais le fait est que c'est un truc qui fédère tous mes flux RSS, et je dirais que 90% des sites sont en RSS, et même il y a des alternatives. Il y a Page to RSS, Page 2 RSS, donc le site qui permet de convertir directement en flux RSS une page, et donc comme ça de détecter les mises à jour.
Il y a d'autres outils aussi, notamment des plugins pour les navigateurs, qui t'informent même avec une sonnerie personnalisée ou pas, hein, une sonnerie hawaïenne
Attention,
par exemple.
une nouvelle aide de jeu vient d'arriver.
sur la modification de termes précis dans une page. Ça peut être déniché.
Et il faut, il faut savoir qu'on peut même monter des flux RSS sur des recherches, des flux RSS sur des recherches Google. Et ça, c'est vachement bien parce que par exemple, moi, j'ai un flux sur Cthulhu et un flux sur Lovecraft. Et alors, je l'ai pas fait en général parce que sinon, ça bouge trop. Mais sur les actualités, comme ça, j'ai des flux RSS qui tournent sur Google et puis comme ça, il me dit ah il y a une nouvelle actualité sur Cthulhu, une nouvelle actualité sur Lovecraft. T'as d'autres idées de sites un peu généraux en dehors de, alors on va répéter quand même, mais la Wikipédia par exemple pour.
Oui, c'est très bon. Il y a d'autres moteurs de recherche parce qu'il faut pas oublier que Google n'offre pas non plus toutes les possibilités de recherche. Avec expression, par exemple, les recherches en négatif, c'est-à-dire en excluant un terme, c'est pas trop possible sur Google. Il me semble que ça l'est sur AltaVista. Mais bon, je pense que l'idée, c'est vraiment de bien connaître les outils et de les utiliser au mieux chacun, l'un de l'autre, pour leur propriété. Et là, tu disais tout à l'heure, toi, par exemple, pour les images en noir et blanc, Google Images offre dans son volet gauche des outils très intéressants pour ça. On peut par exemple faire des recherches dans les tons de couleurs, qui est idéal quand on cherche des photos en noir et blanc. Il y a une possibilité de faire une recherche de photos en noir et blanc, des recherches de photos par couleur dominante, par exemple orange quand on cherche du sépia, noir quand on cherche du noir et blanc. Il y a beaucoup de possibilités à ce niveau. Après, il y a aussi des endroits où traîner. Alors là, c'est pas vraiment de la recherche d'infos, mais c'est vraiment on guette l'info qui tombe. Alors il y a d'obscurs sites, par exemple ça s'appelle English Russia ou un truc comme ça. C'est un site web sur lequel il y a des pop-up à la con toute la journée. Et en fait le principe c'est des galeries photos. Alors il y a des gens qui agglomèrent les photos parce qu'ils les trouvent intéressantes. Et 9 fois sur 10, c'est des histoires de petits chats qui se retrouvent coincés dans le sphincter d'un cheval. Voilà, mais bon.
Mais au milieu de ça, on peut trouver des choses.
On peut trouver des choses très 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 intéressantes. J'en ai répertorié déjà un paquet sur le site. Des images d'auteurs, des photographies qui sont fantastiques.
Dans cette idée-là, moi, par exemple, je sais pas si tu y vas, mais il y a des sites comme DeviantArt.
Fantastique.
Ou des choses comme ça, ou et en plus la même chose, vous vous abonnez à des flux, en plus c'est souvent classé par thème, genre par exemple moi je me suis abonné au flux cartographie, parce que je trouve ça toujours sympa les mecs qui font des cartographies, et puis si vous combinez cartographie et puis fantastique ou médiéval, hop aussitôt vous avez ce que vous cherchez. C'est vrai qu'il y a pléthore un peu de sites qui maintenant permettent vraiment d'agréger les flux et finalement on vous pousse l'intérêt, hein, c'est ça, hein, c'est qu'on peut pas aller chercher tout le temps et partout, et c'est l'intérêt, c'est qu'on vous pousse l'information, quoi.
Et pour ceux que ça intéresse, les flux, et qui sont un petit peu versés dans la technique, il y a un outil qui est vraiment génial. Bon, en termes d'ergonomie, ça se discute encore, mais en termes de capacité, c'est fantastique. Ça s'appelle Yahoo Pipes. Et en gros, c'est une sorte de comment dire, d'usine folle à gestion d'informations. Alors, l'idée de base quand on veut gérer les flux RSS, c'est que on renseigne un certain nombre de flux RSS. Et ensuite, derrière, avec un système graphique qui est assez parlant, dans lequel on tire des traits, on met des modules, on peut qualifier sa recherche. On peut, par exemple, exclure des flux RSS, tous les flux RSS qui sont redondants. On peut exclure tous les flux RSS qui sont en croate. On peut ne conserver que des flux RSS en français. On peut agglomérer plusieurs flux RSS en un seul. Enfin, les possibilités sont vraiment très, très, très étendues.
Je connaissais pas, c'est intéressant.
Ouais, moi je me servais de ça, par exemple, pour les flux RSS du site, pour différencier d'une part les liens que je référençais des articles de fond, parce que ça n'intéresse pas forcément les mêmes personnes. Mais il y a de grandes possibilités avec ça. On peut même sélectionner que le contenu qui contient des MP3 ou d'autres fichiers son. Enfin, il y a de grosses possibilités. Yahoo Pipes.
D'accord. Bon, bah, je crois qu'on a fait un bon petit tour. Je dirais qu'après ces méthodes de recherche, il y en a qui pourront dire que c'est compliqué et tout ça. Et la question qui va surgir, hein, on voit beaucoup de choses surgir sur TOC, c'est est-ce que finalement on peut maîtriser sans aide de jeu? C'est-à-dire venir avec juste son bouquin et puis se poser dans la cuisine, faire la partie sans rien filer aux joueurs, en laissant la lumière allumée. et en n'ayant pas fait forcément de recherche avant, d'après toi.
Je crois que vous tomberez dans une sédition parfaitement inacceptable. Et jusqu'à l'échauffement, vous profilez contre ce mur d'exécution.
C'est vrai que c'est un peu bon.
Non, bien sûr que. Non, la réponse est directement dans la question, je pense. Bien sûr qu'on peut maîtriser sans aide de jeu. Et c'est. Heureusement. Les aides de jeu, dans le sens où on en a parlé jusque-là, c'est juste un plus.
Ouais.
C'est le gâteau sur la cerise. Le gâteau sur la cerise. Ne faites pas le gâteau sur la cerise. C'est un simple.
C'est pas une cerise de PD, hein. C'est la grosse cerise. Ouais,
Ouais, c'est la cerise sur le gâteau. C'est vraiment, comment dire, c'est quand on veut faire plus.
Ouais.
Parce qu'on a envie d'avoir une immersion encore plus forte, parce qu'on a envie de se dépayser, hein, parce que les aides de jeu amènent d'autres choses que des émotions. Parfois aussi, elles sont stimulantes d'un point de vue intellectuel. On fait des parties au coin du feu au camping, génial, super, mais on dévoile un théâtre d'ombre chinois savamment mis installé derrière une tente, un voile de tente, et là tout devient magique.
Mais je suis assez d'accord parce que, mais en un sens, le côté aide de jeu, tout ça. Enfin, pour moi, une partie, essayez-le hein, chez vous, faites l'expérience une fois. Mettez pas de musique, rien, tout ça. Déjà, vous allez voir que la partie, bon, déjà, est moins, pour moi, moins vivante. Et puis surtout, je trouve que on se retrouve avec des blancs. Et ça paraît con, mais autant quand vous avez un blanc, parce que voilà, il peut y avoir des pauses dans le scénario, vous lisez un truc, où il faut réfléchir, quoi que ce soit. Si les joueurs ont les aides de jeu à tripoter, à regarder, à relire, à compulser, si il y a une petite musique de fond, si le fait déjà d'être dans une ambiance, je dirais, visuelle, enfin lumineuse, qui soit propice, rien que ça, vous allez moins vous sentir obligé d'aller hop, remettre une description et hop, renvoyer l'action aussitôt, parce que finalement, l'aide de jeu ou le support matériel va vous seconder, quoi. C'est pour ça que quand je disais au début, c'est pour les mauvais maîtres de jeu, bah, moi je me considère alors comme toujours un mauvais maître de jeu, parce que c'est vrai que j'aime bien que pendant un moment, voilà, je mets la musique un tout petit peu plus fort. Hein, c'est pas non plus, c'est pas du Metallica hein, ou c'est pas du Marilyn Manson, mais je mets juste la musique un petit peu plus fort et puis je continue à potasser un truc et mes joueurs sont sur une réflexion sur comment ils vont rentrer dans la maison de nuit ou comment ils vont retrouver ce genre d'informations ou alors faire un point bilan quoi. Je trouve que c'est important et ça permet voilà de pas se dire ah merde pourvu qu'il y ait pas de blanc parce qu'il va falloir que je parle tout le temps quoi.
Oui.
Et...
Le blanc en soi, je sais pas comment tu le vois, mais au début j'avais tendance à voir ça comme quelque chose de gênant. Finalement, les silences, les blancs, l'absence de musique peut aussi avoir un intérêt à certains moments,
Ouais.
rien qu'en termes de contraste. C'est-à-dire que les contrastes, c'est vraiment quelque chose de fantastique quand on veut poser une ambiance, quand on veut générer une émotion. Il n'y a jamais aucun combat, scène de combat qui sera aussi intense que celle qui suit une longue période de silence dans laquelle les gens ne savent pas quoi faire. Il n'y a pas de musique, rien. La lumière plutôt standard, on va dire, tamisée à table. Et ensuite, on va créer un contraste en balançant une musique terrible, extrêmement
Alors,
saccadée, en balançant une lumière
ça,
crue.
je suis d'accord avec toi, c'est vrai que ça marche super bien.
Le
Il
contraste est
faut
important.
juste évaluer, pardon, vos joueurs.
Oui.
Parce que moi, je connaissais pas mal de enfin, je connais encore pas mal de joueurs ou de tables où finalement, quand tu les laisses trop réfléchir, ils vont faire un truc à la con, quoi.
Ah oui,
C'est-à-dire que
ouais, surtout vers 3 heures
si,
du mat, ouais.
voilà, ouais.
On est
C'est-à-dire
connu.
que il faut bien doser. C'est vrai que ça marche super bien.
Oui.
Mais il faut bien le doser. Faut bien être conscient que on n'est pas au début de partie et on vient de lancer la partie et clac, on claque un silence, on claque une pause. Parce que là, vos joueurs, ils vont tenter tout et n'importe quoi. S'ils sont en train d'hésiter entre rentrer par la porte d'entrée discrètement ou par derrière discrètement, si vous les laissez trop poireauter, il y en a bien un qui va s'énerver en disant, ouais, c'est bon, allez, on défonce la
Yeah.
porte. Allez,
On est équipé, on y va, merde.
Ah merde, putain, merde, j'ai pas acheté le pied de biche pour rien, quoi.
On est
Donc,
que.
mais c'est vrai que le switch est toujours important, comme bah, le fait de mettre la musique plus fort quand la scène devient un peu d'action et que vous voulez foutre le bordel, puis tout couper quand vraiment ça devient tendu et que vous voulez leur indiquer que là, bah, là faut réfléchir et puis là ça va, ça, enfin, la scène se prête plus à la déconnade ou quoi que ce soit très juste, ouais. Mais
Et
donc on est
le
d'accord. Pardon? On peut
Ouais,
jouer.
je peux dire un truc sur le dosage, quand tu m'en parlais,
Ouais.
c'est assez intéressant. Il y a aussi, enfin, tu disais que on dose durant la partie ou selon les intrigues, etc. Il ne faut pas non plus oublier de doser en fonction de ses joueurs. Par exemple, c'est toute la délicatesse de faire jouer des gens dans une combe pour la première fois. Quand on connaît bien ses joueurs, quand on connaît bien leurs réactions, leurs attentes, peut aussi doser l'intensité des techniques ou des aides de jeu.
Voilà, on
Pour
sait qu'on
pas,
peut avoir des, on peut avoir des groupes qui réagissent pas à la musique ou quoi que ce
voilà,
soit ou...
ou ouais, effectivement, déjà des choses que les gens n'aiment pas ou auxquelles ils ne sont pas réceptifs. Je sais que il y a quelques années, quand je sortais ma machine à fumer pour certaines parties de test, les gens me jetaient
Tout le monde sortait le masque à gaz.
des.
Mais qu'est-ce
Oui,
qu'il
ils faisaient
fait?
jamais leur machine à fumer alors qu'ils m'ont sauté dans une scène d'exploration d'auberge. Enfin, insoutenable. Mais voilà, donc le fait de doser est important, le fait de connaître ses joueurs aussi, c'est un paramètre.
Alors, bon, on est d'accord, on peut tout à fait jouer sans aide de jeu.
Entièrement.
Soyons clairs, pour une campagne, moi je dirais qu'il y a quand même 90% de chances que vous ayez besoin des aides de jeu, parce que dans les parties, je dirais multi-séance, c'est quand même un liant super important. Enfin, moi je vois, si vous mettez une musique bien caractéristique pendant votre campagne, les gens arrivent à une nouvelle séance, je sais pas, c'est la cinquième séance et tout, vous tapez la causette, qu'est-ce qui s'est passé, où est DSK, enfin des genres de choses. Et quand vous voulez vraiment lancer la partie, dans ce cas-là, vous mettez la musique, et vous allez voir que rapidement, hop, on switch vers le jeu. Ça peut être des catalyseurs, quoi,
Genre
hop,
du rituel même.
voilà, vous allumez les bougies au moment du début de la partie, ou des choses comme ça. Et donc on est d'accord, c'est vraiment à gérer, mais dans le contexte de la prochaine sortie des masques et dans le contexte de la campagne en général, pour moi, c'est vrai que les aides de jeu sont quand même assez importantes, et de toute façon, elles seront disponibles, normalement, elles seront disponibles en PDF ou ce genre de choses pour la sortie de la campagne, pour que justement, tout le bon matériel qu'on vous a mis au point, vous l'ayez sous la main. Car je vous rappelle, la photocopie tue le livre.
Oui, c'est là.
Et donc là, vous aurez tout sous la main. Juste une petite question pour terminer sur cette partie-là du podcast. Est-ce que tu aurais des souvenirs de ta meilleure ou de ta pire création en aide de jeu? Le truc qui a super pas marché ou pas marché dans le bon sens, ou je sais pas, un truc explosif qui t'a pété à la tête en plein milieu de la partie, ou...
En
Le truc où les gens t'ont dit: ah mais mon Dieu, mais tu as retrouvé le vrai. Mais non, non.
Oui, ouais, j'ai un souvenir de bonnes et de mauvaises aides de jeu. Bon, pour la bonne, parce que la moins bonne est plus drôle. On va terminer par ça. Pour la bonne, oui, il y a certaines aides de jeu sur lesquelles je me suis vraiment, enfin, j'ai passé beaucoup de temps et enfin, j'étais c'est de placer la barre assez haute parce que je voulais vraiment,
Impressionné.
disons, obtenir
Scotché.
un résultat qui soit vraiment efficace. Il m'est déjà arrivé de préparer, par exemple pour un scénario de Cthulhu qui est connu, c'est un scénario officiel, c'est No Man's Land.
Ouais.
Bon, là on est vraiment déjà plus dans la définition que j'ai donnée tout à l'heure, mais c'est ça s'approche. J'ai préparé des pistes sonores, des pistes de bruitage pour illustrer chaque moment de la partie, chaque moment décisif.
Ah ouais, quand même.
Chaque ambiance pendant la partie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un scénario qui est assez linéaire, parce que on prépare les aides de jeu à l'avance. On ramène aussi un peu la thématique de est-ce que c'est prévu à l'avance, est-ce que c'est déterminé. Certains scénarios, en particulier les one shots, ne souffrent pas de la linéarité. Au contraire, hein, je pense que pas forcément toujours un point négatif. Donc le No Man's Land, c'est un scénario qui est somme toute assez linéaire. J'ai prévu des ambiances. Des bruitages pour chaque instant, c'est-à-dire qu'au début, on entend, enfin, sans trop spoiler, hein, on entend des gens qui creusent la terre, l'eau qui tombe, et ensuite, il y a des événements sonores qui arrivent, et disons, tout ceci est très immersif, c'est-à-dire que même sans jouer avec de la musique, rien qu'avec les bruitages, on a quelque chose de très immersif, surtout avec un putain de sound machine, double subwoofer, éclaté. En général, les voisins sont contents. J'avais une anecdote. Bon, on va pas l'aborder. Et en termes de pire aide de jeu, oui, alors sans hésiter, j'avais l'ambition de faire une campagne de cyberpunk un âge assez reculé avec des amis à l'époque où j'étais chômeur et je me suis dit que j'allais pas me dépatouiller avec les règles de combat et j'ai fait un logiciel de gestion du système d'action qui s'appelait Guerre Urbaine d'ailleurs qui est sur le site. Exclusivement.
Tout le monde va aller voir.
Ouais. Et en fait, des joueurs l'ont complètement saboté cette campagne. On a joué 2h30. J'avais fait 15 jours de préparation et le logiciel je l'ai balancé aux ordures. Ouais, c'est fini. Mais bon, c'était pas vraiment l'aide de jeu qui était en cause, mais c'était le pire flop.
Le truc que tu prépares pendant des heures et.
C'était pour une histoire de bots. Et de garde qui voulait pas les donner. Et tout s'est terminé comme ça, quoi. Enfin bon, je ne ferai aucun commentaire. Victor, si tu nous entends.
Souviens-toi
des bots.
Mais c'est vrai que bon, il faut savoir de toute façon, enfin, on fait tous des erreurs. Je pensais à ça aussi, c'est vrai que la question qui peut, enfin, la remarque qui peut se poser, c'est que bon, l'aide de jeu qui se fait le plus facilement, c'est le papier journal ou la lettre. Et c'est vrai que souvent, moi, enfin, j'avais bêtement pas réfléchi, mais je vieillissais toujours tous mes papiers. Et c'est vrai que j'avais eu la réflexion du type qui me dit, mais enfin, il va acheter le journal à un vendeur, à un crieur dans la rue et tout, et je lui file l'aide de jeu complètement moisie, à moitié bouffée par les rats, à moitié brûlée et tout. Et elle me fait, mais c'est hors de question que j'achète ça. Enfin, si j'achète le journal pour lire les news, je veux pas que le vendeur me file un truc à moitié froissé. Apparemment, oh, mais mon Dieu, mais ça sent le thé en plus. Mais qu'est-ce qu'il a été faire? Il a renversé son thé, ce con. Et c'est vrai que c'est assez marrant parce que faut bien doser le truc et on peut avoir des super idées, mais il faut rester, ce que tu sais, dans le côté immersif, faut que ça reste cohérent et on ne va vieillir que ce qui doit être vieilli, un vieil ouvrage ou quoi que ce soit. Mais si la personne chez qui vos joueurs trouvent un ouvrage et conservent très bien les ouvrages, l'ouvrage il sera juste peut-être un petit peu jauni, mais c'est tout quoi. Donc il faut y aller tranquillement et vous inquiétez pas pour les masques. Vous aurez de quoi faire pour les aides de jeu et enfin vous en parlera plus tard. Notamment à ce niveau-là, pour revenir sur les masques donc le jeu en campagne. Je crois que tu voulais qu'on aborde un petit peu le côté important du jeu en campagne à notre époque ou à notre époque, alors ça fait un vieux con. Mais je suis un vieux con. Vas-y, t'es un bel. Et que c'est vrai qu'à notre époque où ça va quand même plus vite, on le voit dans les différents concours de jeux de rôle amateurs ou quoi que ce soit, où on vous demande de faire un jeu de rôle sur un post-it, ou un jeu de rôle en trois mots, un jeu de rôle en cinq caractères ou des choses comme ça, ou un jeu de rôle campagne qui tient sur une feuille A4. Revenir sur quand même l'importance du jeu en campagne et ce qu'il apporte, le truc qu'on retrouvera jamais dans ce qu'on pourrait appeler le snack role-playing game, le snack JDR. Et je crois que t'as un avis aussi là-dessus.
Oui, disons que tout partait d'une observation, c'est-à-dire que il y a une longue période pendant laquelle j'étais pas trop sur Internet, je laissais le site vivre sa vie. Je m'intéressais pas trop à ce qui se faisait, je passais en temps sur TOC ou sur des lieux qui m'intéressaient. Et à un moment, je sais plus comment ça s'est produit, je suis revenu sur Internet, j'ai commencé à lire un peu ce que les gens disaient, où étaient, quelles étaient les sensibilités, ce qui se faisait dans le monde relié sur Internet. Et je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de petites publications, de petites éditions intéressantes qui sortaient, comme on peut les appeler parfois des snacks JDR ou quel joueur le JDR, le principe étant d'avoir un jeu qui soit très spécifique. Par exemple, on interprète on interprète des ingrédients de pizza, on doit survivre dans le passage au four, je sais pas. Donc c'est des choses qui sont très stimulantes, qui sont très spécifiques, ciblées avec un système de jeu très très orienté, et pour lequel on a un rendu en termes de partie qui est essentiellement des one-shots. Quand on dit des one-shots, c'est plutôt un, deux one-shots, on teste, on trouve ça marrant, mais on n'y revient pas. Et donc ce qui est intéressant, c'est déjà la profusion, l'imagination de ces publications, de ces éditions, il y en a vraiment beaucoup. On partait un peu dans tous les sens, et je me suis dit, dans un premier temps, j'étais assez enthousiasmé. Mais après, je me suis, tout en cherchant quelque chose d'un petit peu plus profond...
Revenu dans les droits chemins.
Non, mais en cherchant, disons, les jeux à campagne, les les belles campagnes qui étaient sorties depuis. Tiens, est-ce que maintenant, enfin, quelles étaient les bonnes campagnes dans l'esprit des gens? Est-ce qu'on était sorti du temple du mal élémentaire
après notre retour.
Voilà, et la campagne de Dragonlance. Est-ce qu'on était venu vers d'autres choses? En fait, j'étais un peu déçu.
Ouais.
Je me suis rendu compte que il y avait une nouvelle campagne qui est sortie, donc notamment par exemple, je pense aussi à celle de Cops, qui est assez intéressante. Il y en avait d'autres, mais globalement, j'avais l'impression d'une fuite du jeu en campagne. Je me suis rendu compte que les nouvelles éditions qui sortaient souvent rebutaient un peu à s'engager dans la publication de campagne ou dans la proposition de campagne. Quand ça arrivait, c'était souvent de simples suggestions, c'est-à-dire voilà, on peut faire une sorte de campagne comme ça. Allez-y dans ce sens, ça peut être intéressant, mais il n'y avait pas réellement un moteur à inspiration derrière, des situations, des personnages qui étaient creusés.
Ouais.
Et ben tout ça m'a fait un peu réfléchir, prendre un peu de recul sur notre manière de jouer. Je me suis demandé finalement si ce qu'on observe dans les jeux vidéo, c'est-à-dire cet attrait pour le je me connais, je joue, je vis mon histoire très personnel, et puis ensuite je me déconnecte et c'est fini. L'aspect je viens, je prends, je m'en vais, c'était pas en train aussi de...
Le miner un peu, ouais.
Tu vois, je vais dire contaminer, mais là on va sentir que je suis orienté, contaminer un peu notre pratique franco-française du jeu de rôle. Pourquoi? Parce que de souvenir, je ne sais pas si c'est pareil pour écoute, toi, pour les autres, mais de souvenir en ce qui me concerne, les moments les plus intenses que j'ai pu ressentir en une partie, que ce soit meneur ou joueur, c'était systématiquement dans des campagnes.
C'est
les seules manières de jouer qui ont pu créer une profondeur, créer un climat, créer un attachement à un et des personnages qui était suffisant pour vraiment arriver à des moments très intenses.
Pour avoir pour en revenir aux discussions de vieux cons au bar, en disant, tu te rappelles quand on a fait les masques et tout,
ouais.
Formidable, le type qui nous a poursuivi pendant 20 scénars, ou alors ce genre de choses, ou c'est vrai que le fait de jouer et même des mini campagnes, même les longs métrages de Cassius Belli que vous pouvez retrouver pour certains sur Toc, rien que ça, il suffit que la partie s'étale sur une dizaine de séances et ça y est, vous avez et puis c'est ce que tu dis, vous avez un vrai sentiment différent de la partie classique, quoi. Parce que vous avez en dehors du méta-jeu et du fait qu'on se dise qu'on va sans doute rester jusqu'au bout, même si on change de perso parce qu'il est devenu fou ou alors s'il est unijambiste, mais le truc c'est qu'on se dit, enfin on est parti pour une longue période, donc de toute façon ça oriente le jeu, ça oriente la façon de jouer, on va se dire on va faire plus attention. Moi j'ai tout de suite remarqué que quand on commence une campagne, les gens arrivent avec un cahier pour écrire, pour noter. Les plus fracassés arrivent avec un nouveau cahier, hein.
Oui.
Genre quand on commence une campagne, mais c'est déjà arrivé avec un très bon pote qui entamait un nouveau cahier à chaque fois. Et alors que bon, quand vous faites une partie one shot, voilà, c'est vous notez sur une A4 ou même au dos de la feuille de perso, et puis Zubada, quoi. Même si votre joueur vous le reprenez si votre personnage vous le reprenez plusieurs fois, ça sera pas la même chose, quoi. C'est, ou alors même si vous le reprenez plusieurs fois, vous aurez tendance à privilégier donc de jouer avec ce personnage-là et d'avoir une espèce de suivi et finalement de faire un jeu en mini campagne autour de votre personnage. Mais je pense qu'on va falloir qu'on en parle un petit peu, mais
ouais.
Au-delà du côté meurtrier de l'appel de Cthulhu qui tout le monde va me dire ah mais non, on peut pas faire du jeu en campagne d'appel de Cthulhu, on meurt tous à la fin du scénar.
Ouais,
je dis non, parce que déjà on joue comme on veut, et si on a envie de jouer en campagne, on joue en campagne, c'est pas les règles qui vont nous imposer de mourir, c'est ni Lovecraft, hein, il est mort, paix à son âme. Surtout qu'il aurait pas forcément aimé qu'on fasse du jeu de rôle avec son truc, mais le fait est que le jeu en campagne donne une dimension au personnage, à l'histoire, au respect du scénario, au fait que le maître, le gardien se retrouve avec une panoplie de trucs et astuces où le type se barre, bon, pas forcément comme dans un bon film pulp, genre je reviendrai, mais disons qu'il, voilà, il peut fuir, on peut entendre parler de quelqu'un au début de la campagne, puis le croiser à un moment donné sans savoir que c'est lui, puis le revoir en fin de campagne et tout, et finalement tout mettre en corrélation, enfin.
Ouais, c'est une opportunité qui est vraiment géniale et qu'on ne peut que obtenir dans les campagnes par définition. Il y a plusieurs parties.
Voilà.
Je pense que le jeu en campagne est une question aussi d'implication. C'est-à-dire quand on joue en campagne, quand on joue sur une longue distance, il y a une intrigue qui se construit, il y a des personnages qui se construisent, et on s'implique. On donne un petit peu de soi, les choses sont un petit peu plus importantes, et ce qui fait que, comme quelque part on a une sorte d'enjeu émotionnel, un enjeu intellectuel aussi à résoudre une campagne, on va faire plus attention, comme tu disais. Et tout le paradoxe, tu en parlais aussi de la mort des personnages à Cthulhu, pour moi, ne gâche pas le jeu en campagne à Cthulhu, ne serait-ce que parce que, même si on ne peut pas forcément s'impliquer longtemps dans un personnage fait à leur âme, on peut s'impliquer par contre dans l'intrigue. Et ça devient quelque chose qui
finalement, on joue, on joue pour l'intrigue, ouais, tout à fait.
On joue pour l'intrigue, et c'est ce que je vois aussi. Enfin, je suis en train actuellement de faire jouer la campagne de Massimilien et peut-être, et je vois que, disons, l'implication dans les personnages passe un peu en second plan. C'est-à-dire que, bon, ok, on prend plaisir à interpréter, t'as un cow-boy, une diva du Mansing, un bibliothécaire poussiéreux, tour à tour, mais finalement, le véritable plaisir, le véritable fil rouge, ça tient dans l'intrigue et dans ce qui s'y passe.
Ouais.
Même les grands méchants, quand je vois mes joueurs qui perdent des fois leur personnage, qui en font un nouveau, on fait une sorte d'ellipse du genre, voilà, les autres vont raconter au fil de ces quelques jours ce qui s'est passé, comment est-ce qu'ils ont vécu les choses. Et quand je vois les grands méchants qui arrivent, le nouveau personnage le déteste autant que le précédent, et c'est une espèce de non-dit, une petite incohérence, mais qu'on apprécie beaucoup. Les grands méchants restent des grands méchants, les gens en campagne.
Et puis surtout de plus en plus, je dirais qu'il y avait l'argument du temps de préparation, mais de plus en plus, bon, on l'a vu, alors moi je l'aime pas, mais par exemple pour les montagnes, vous avez vraiment de plus en plus, c'est du tout en un, c'est-à-dire que là vous l'aurez, alors là ce sera carrément décuplé pour les masques de la Totep version 2012, mais c'est vrai que de plus en plus on vous file vraiment tout directement dans le bouquin, et vous avez un minimum de recherche à faire autour, ou de choses à développer un peu autour, et finalement vous ne développerez que ce qui vous manque, mais ce qui n'était pas crucial pour la campagne. Et dans ces cas-là, c'est vrai qu'on prend tous facilement sur nous en disant oui, moi c'est vrai que aller visiter toute Istanbul de A à Z, c'était pas prévu dans la campagne, il devait même pas passer par là, mais vous avez envie de vous faire un trip dessus, ben vous allez le préparer pour vous faire plaisir. Donc le côté durée préparation, je trouve, commence à disparaître, surtout avec les outils internet et tout, avec les sites web et ce genre de choses. Et par contre, bah, ce qui reste, et c'est là où ça fait, c'est le plaisir du truc, c'est vraiment le fait de se retrouver à intervalles pseudo réguliers pour poursuivre le truc. Il y a même le jeu en campagne qui peut se faire sur internet. Alors moi je l'avais fait quelques tests sur Tok, ça n'avait pas forcément fonctionné parce qu'il faut être quand même assez disponible. Mais tout, j'irais la
communauté qui pratique.
Ah oui, il y a beaucoup de gens qui sont là-dessus, et ça marche très très bien. Moi, je me bats de temps en temps pour regarder des parties, que ce soit sur Pathfinder ou des jeux comme ça. Et c'est toujours intéressant. Et c'est vrai que on a plus l'impression de suivre une histoire que juste, ouais, de voir juste une partie de jeu de rôle. Donc le jeu en campagne reste et restera toujours une autre façon de jouer, et peut-être un plus, quoi. C'est-à-dire que autant sur une année on va pouvoir faire, je sais pas, une vingtaine de scénar one shot, et de se dire par contre, bon, j'ai fait une campagne ou deux campagnes, mais voilà, et c'était du lourd, et voilà, quand on en rediscute, je me souviens plus des petits scénars, mais par contre je me souviens des campagnes que j'ai jouées, parce que ça, et c'est vrai que c'est moi, toutes les grosses campagnes que j'ai jouées, je m'en souviens très très bien, alors que tous les scénars, pas forcément. La plupart, oui, mais pas forcément de tout. Alors que on a toujours des grosses scènes dans les campagnes. C'est l'intérêt du jeu en campagne, c'est que vous pouvez beaucoup plus moduler l'intensité. En ce sens que ce qu'on disait comme scène de calme, d'attente ou de silence, dans une campagne vous en foutez, vous en avez pour des heures de jeu. Donc moi ça m'est arrivé de me faire chier pendant 2-3 parties, et c'était à dessein, c'est-à-dire que le gardien voulait qu'on se fasse chier, quoi.
Il y a des passages à vide, et ça fait partie de l'intrigue, ça fait partie de ce plaisir aussi. Parce que derrière deux séances à vide, on va peut-être se rendre compte que finalement on a trouvé les choses essentielles et on va tomber sur une troisième partie qui va être extrêmement intense.
On va être attaqué quoi. On va être à fond parce que on aura rongé notre frein pendant trois séances là pendant 15 heures et on va être là. Mais vu que vous allez croiser le type sur lequel vous enquêtez depuis des jours et des jours, il va prendre cher quoi. Et c'est vrai que c'est en plus vous pouvez distiller plus de choses parce que un méchant sur un scénar one shot, il arrive, c'est pas, il est habillé en noir et tout ça, mais disons qu'on sent venir le méchant, c'est pas du méta-jeu, mais on le sait quoi. Alors qu'en campagne, si type est joué un enculé, type est joué un enculé longtemps avant qu'on s'en aperçoive quoi. Et c'est le type qui va peut-être aider sur trois scénars les investigateurs et sur le quatrième va se réveiller être un enfoiré de première.
Bon, je et une fois emprisonné, va s'échapper mystérieusement en volatilisant. On va peut-être recroiser quelqu'un avec la même intonation dans un tramway, mais qui n'aura absolument pas les mêmes traits et qui va leur dire quelque chose de très déroutant avant de partir.
On peut vraiment jouer, ouais.
Il y a quelque chose sur le long terme, comme tu dis. Et après, en termes de campagne, j'avais aussi envie de dire deux choses de manière générale. Aux nouveaux rôlistes ou aux gens qui pratiquent, qui ont une pratique récente ou nouvelle, qui connaissent pas forcément le jeu en campagne, faites-vous le palais, essayez, jouez à quelques séances en campagne, avec des campagnes qui sont en cours, voire même proposez vos campagnes, parce que je pense qu'il y a pas mal d'a priori sur le jeu en campagne, c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est lent, c'est chiant, il y a plein de choses à préparer, il faut se voir régulièrement, mais ce qu'on peut vous dire vraiment, hein, c'est que lorsque le jeu en campagne prend, tout s'organise simplement ensuite derrière. Et vous n'êtes pas toutes les séances en train de ramer à préparer. Parfois vous viendrez les mains dans les poches, vous aurez même pas envie de
faire. Alors ça c'est une très juste remarque. Il y a des fois où avec le jeu en campagne, vous arrivez à une séance et vous n'avez rien à foutre pour lancer le scénar. Parce que vos joueurs, sur le suivi des scénars précédents, ils vont arriver, ils vont dire bon alors aujourd'hui on fait ça, ça, ça et ça.
Ouais, ils organisent leur emploi du temps, carrément.
Vous allez
c'est généralement ce qui se passe complètement. C'est ce qui est même souhaitable avec la campagne. Lorsque le meneur de jeu a prévu des choses particulières, en général, simplement pour relancer ou pour mettre un peu de piquant, pour ouvrir une nouvelle intrigue, mais c'est vraiment, en tout cas pour la campagne des masques, c'est vraiment les joueurs qui construisent leur intrigue et qui décident vers quoi ils s'orientent, comment ils orientent. On peut très bien avoir un groupe qui va gérer une situation à la réservoir Dogs à coup de lame de rasoir et d'essence, comme un groupe qui va enquêter pendant de nombreuses heures dans des bibliothèques, interroger prudemment des gens qui ont des intermédiaires.
À la Jessica Fletcher dans Arabesque.
et donc, une campagne, c'est bien l'idée, ça prend, faites-vous le palais, commencez, jouez en campagne, et simplement pour voir, et même vous verrez, les choses vont s'organiser d'elles-mêmes, les gens vont se rendre disponibles, le plaisir de jeu va monter, et puis vous aurez 30, 40 parties derrière vous de campagne, vous auriez l'impression que ça a commencé hier.
Et alors comment c'est peut-être c'est ce que tu disais, c'est que faites-vous les dents et essayez peut-être par les longs métrages de Cassius par exemple, qui sont des trucs pas de la grosse campagne énorme. Un conseil, pardon, si vous voulez attaquer, si vous n'êtes pas sûr, si vous êtes sûr, allez sur n'importe quoi, mais si vous n'êtes pas sûr, vous lancez pas sur Terreur, sur l'Antexpress ou le rejeton d'Azatoth.
Non, complètement.
Débuter par Yotrafio, Liqueur d'Algue, ou alors La Maison Reste Ouverte pendant les travaux, ou des choses comme ça, le Quatrième Cavalier, des scénars qui sont dispo sur TOC. Et déjà, vous aurez une vraie gestion d'aventure en campagne, divisée en scénarios. Et puis vous verrez comment vous gérez le truc, et comment vos joueurs aussi réagissent, parce que ça se trouve, vous avez des joueurs que vous avez peut-être perdus avec les scénars one shot et qui vont revenir parce que le jeu en campagne c'est carrément leur trip, ils adorent justement que ce soit bien long et que ce soit parce que, finalement le fait est que on peut se dire que par exemple quand on fait le parallèle avec les jeux vidéo, moi je vois je joue pas mal, mais si on prend si on prend un jeu comme Call of Duty, finalement c'est un peu un jeu en campagne parce qu'on vous balance des épisodes les uns après les autres. Et vous reprenez avec bonheur tous les ans ou tous les 6 mois la suite du truc. Donc concentrez-vous en tant que gardien sur les scénarios pour qu'ils restent tous intéressants. Et vous verrez que c'est très facile après qu'avec des scénarios intéressants, où les joueurs ont l'impression de faire une petite partie comme ça de temps en temps, Et ça va rajouter une énorme dimension de se dire, bah, finalement, toutes ces petites parties sont dépendantes les unes des autres et amènent à un putain de final où ça va être, vous avez un scénar entier, enfin une séance entière où c'est le feu d'artifice, quoi. Donc
Ouais.
voilà, ça c'était pour vous donner des idées. Je sais pas si t'en as d'autres, Steve, de ton côté,
Tu
pour
vois,
motiver les gens à jouer en campagne.
motiver les gens à jouer en campagne, bah, soyez-y, allez-y, testez, derrière, franchement, vous serez pas
Faites-nous les retours hein, sur Toc et tout,
déçus.
faut pas hésiter. Hein. Il y en a, vous pouvez le voir sur Toc, il y en a plein qui ont posé des questions et c'est souvent les campagnes d'ailleurs qui posent le plus de questions. Il faut pas hésiter parce que les gens qui les ont fait jouer souvent, bah, comme ils ont pris leur pied ou alors comme ils ont fait des grosses conneries, ils seront prêts à partager leurs expériences avec vous, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et
Ouais, complètement.
vous partirez pas à poil quoi.
Ouais. Le fait de justement discuter avec des gens qui ont déjà fait jouer une campagne, c'est vrai que tu dis justement, offre souvent un gros plus. Il n'y a pas longtemps encore, je discutais avec quelqu'un d'une autre campagne, c'était la campagne impériale pour Warhammer. On a discuté pendant des heures, on s'est vraiment échangé un feeling sur lui, ses premières parties, et moi, les fois où je l'avais fait jouer. Et il s'en est vraiment ressorti quelque chose. Hein, tu vois, on est vraiment un échange de savoir-faire.
Parce que ouais, vous aurez une façon de la jouer, une façon dont les joueurs peuvent réagir, et ça vous permettra déjà de vous blinder en fonction de ce que vos joueurs vont faire, ce que vous ne savez pas d'avance. Mais c'est vrai que c'est super intéressant de savoir si le lien prend au début de la campagne, à la fin, ou si... Parce qu'il peut y avoir des campagnes où on va vous dire, ah ouais, mais vous savez, faut faire gaffe, parce qu'au bout de trois scénars, tu verras, l'ambiance retombe un peu, donc moi j'avais prévu des scénars un peu plus action à ce moment-là, ou des choses comme ça, l'échange sur les campagnes est vraiment capital, et c'est vraiment intéressant, et puis bon, avec les outils qu'on a maintenant, c'est assez facile à mettre en œuvre, quoi.
Entièrement. Et justement, je voulais dire un mot là-dessus. Je pense que au niveau de la campagne des maîtres de Nyarlathotep, dans sa réédition, on a vraiment, enfin, l'équipe de Toc a vraiment essayé de comment dire, de mettre, d'utiliser la patine qu'avait la campagne avant, dans les années 80-90, tout en y incorporant pas mal de choses qui correspondent à des demandes très actuelles, notamment le fait d'avoir des aides de jeu cyclopéennes qui soient bien adaptées, un peu clé en main, et de les proposer directement dans la campagne. Et après aussi le fait de briser la linéarité et
Ouais.
de changer pas mal de choses, de proposer des inspirations de jeu, d'enlever des choses, de raboter des choses qui n'étaient pas très efficaces à l'époque, on obtient quelque chose de prêt à personnaliser. Et ce que tu disais tout à l'heure était très intéressant. Chaque campagne que vous allez faire jouer sera personnalisée, sera votre empreinte, et non pas celle d'une personne X ou Y, ça sera la vôtre et aussi celle de vos joueurs. Vous verrez que, enfin, si jamais vous êtes assez maso pour faire rejouer une campagne plusieurs fois de suite, comme c'est le cas pour toi et moi avec des masses, vous verrez que chaque crew de joueurs et de personnages va orienter une campagne d'une manière
Après,
différente.
à chaque fois, on prend son pied de façon différente, parce que
Exactement.
c'est,
Ouais.
que ce soit par les détails ou par la globalité, il y en a qui vont être, vous allez jouer vraiment de façon différente, et en plus, soyons très honnêtes, on devient meilleur, à chaque fois, on la maîtrise, parce que, on s'est approprié les PNJ, on sait comment ça peut se dérouler, on sait comment ça ne devrait pas se dérouler si on l'a déjà chié avec une équipe et qu'on veut pas refaire les mêmes erreurs. Donc, puis bon, là en plus comme elle va être revue, donc faut pas hésiter à la refaire. Mais même pour les masques, hein, si vous êtes débutant, c'est pas quelque chose d'insurmontable, bien au contraire. Sinon, il est même possible de l'arrêter un peu quand on veut. On peut la raccourcir, on peut la rallonger. Enfin, c'est le contexte étant assez ouvert pour que, voilà, si vous trois grands méchants, ça vous suffit pas, vous en mettez quatre, vous en mettez cinq, ou si trois c'est beaucoup trop, peut y en avoir un seul. À la Scooby-Doo. Non, c'était lui. Oh, mais non, c'était moi. Oh, mon Dieu,
Gardien
mais
du parc d'attractions.
Mon Dieu, c'était le jardinier du parc d'attractions. Donc,
Votre vie serait
il
millionnaire si vous n'aviez pas intervenu.
y a bande de petits chenapans. Donc c'est vrai que c'est, là vous pourrez faire un peu ce que vous voulez. On en revient donc, on repassait sur les masques. Juste quelques retours sur comment tu en es venu à te rapprocher des masques et notamment te rapprocher de Toc au départ.
En guise du 875, plus précisément le 27 juillet. Non, pour être clair, c'est vrai que le rapprochement avec Toc s'est fait progressivement, puis même vachement plus longtemps qu'on ne le pense.
Ouais.
Ça remonte aux années 90, où, disons, j'avais découvert Toc à travers tes interventions. Il y avait un endroit où beaucoup de gens sévissaient, beaucoup de rôlistes sévissaient. C'est un forum de newsgroup de la FRGJ, une sorte de système de chat, enfin pas de chat, mais de forum sur des serveurs spécifiques, ceux qui connaissent, et où toute la communauté rôliste.
Oui, il y avait tous les rôlistes, ouais.
Ouais, avec Rapa, Medi, qui est une légende, enfin, tout ça, et, à l'époque, j'avais débarqué dessus et j'avais pu remarquer le travail d'auteur. Comme beaucoup d'autres bonnes collaborations dans ma vie, c'est une sorte de long flirt tranquille tout au long des années où finalement le rapprochement s'est fait petit à petit, je pense pour des questions de vision commune des choses, non seulement le hobby nous intéresse, mais en plus on est un peu monomaniaque de Toulouse.
Voilà, c'est parce que ton site de base était dès le départ très orienté quand même à Appel au Toulouse.
Oui, mais effectivement, c'était un peu le reflet de mes goûts personnels. Il y avait pas mal d'aides spécifiquement dédiées ou de conseils spécifiquement dédiés à l'appel de Toulouse.
Ensuite, mais comment me servir de ce vieux poulpe comme aide de jeu dans mon scénario médiéval fantastique?
Avec oui. Catapulte, nous pourrions peut-être
le renvoyer et au bout d'un moment, il sortirait du château.
Une pêche, oh, le poulpe, le poulpe. Mais, bon.
Mais c'est vrai que ça remonte, ouais, ça remonte à pas mal de temps, parce que moi j'avais découvert ton site assez au départ quand même.
À l'époque où il y avait design numéro 01.
Voilà. On a tous, on ne revenons pas sur cette période difficile comme les chemises les blousons en sky.
Et le dos et les coupes à la brosse.
Le velours côtelé et tout ça. Mais ce qui est assez marrant, c'est que pour en venir à la partie masque, tu t'étais proposé de toi-même, ou alors moi je t'avais proposé le truc et du fait que je ne pouvais pas dire précisément ce que c'était, ça t'avait saoulé, t'avais dit bon bah le jour où tu pourras me dire ce que c'est, je reviendrai. Et puis finalement ça s'est fait quand, c'était l'été dernier,
ouais je crois que c'était fin du printemps 2011.
Fin du printemps, ouais.
Ouais, vous êtes décidé à cracher le morceau.
Parce qu'en ouais, en plus, ça commençait à... Bah non, ça fuitait pas, mais le truc, c'est qu'on savait qu'on allait sans doute avoir besoin de plus de monde. Et disons qu'on a tout de suite pensé à ta collaboration d'un point de vue déjà orientation sur justement les aides de jeu et tout ça, quoi.
Et c'est effectivement par ça qu'on a commencé. J'ai commencé à me mettre sur quelques aides de jeu dont vous aviez besoin. Et on a fait de la prod sur... je crois d'abord trois petites aides de jeu orientées. Ouais. Et ensuite, bon, je pense que le courant est bien passé. On voyait un peu comment chacun travaillait. Et je pense que ça nous encourageait à continuer. Alors après, je sais que vous m'avez mis avec Yoda sur une grosse, très grosse aide de jeu.
Alors là, maintenant, on attaque la partie du poolcast où on parle des masques. Bon, on essaiera de vous prévenir un peu avant si on fait vraiment du spoiler. Mais c'est vrai que une des parties sur lesquelles tu as travaillé, c'est
une aide de jeu de 34 pages.
Voilà, c'est pas.
Alors j'ai compté l'autre jour, parce que je fais c'est de mes os dans l'âme. Je voulais voir combien je m'étais infligé. J'ai fait plus de 12 000 mots et que vous ne trouverez probablement jamais. C'est ce qui est drôle. Enfin.
Non. c'est vrai qu'elle est assez bien planquée, mais c'est vrai que c'est moche. Par contre, selon Claire, elle est ça fait quand même un peu partie des colonnes vertébrales de la nouvelle version des masques. Par contre, elle est assez décomposée, on va dire, elle est plutôt morcelée. Et par contre, si vous en trouvez une, vous saurez où trouver les autres. Mais on peut tout à fait passer à côté. Et bon, alors là, pour le coup, ça serait vraiment dommage.
C'est la beauté du jeu. Voilà, allons-y.
Mais alors, quand vous allez tomber dessus, franchement, je crois que vous allez vous marrer, vous allez repenser à ce podcast.
Il n'existait pas d'ailleurs cette aide de jeu dans les versions précédentes.
Ah non, 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 absolument pas.
Parce que je pense qu'elle aurait rendu fou toute personne qui aurait essayé de
la mettre en œuvre, de la rendre cohérente.
Ce serait manger la langue et ensuite il se serait rincé les poils de la tête avant de se jeter dans une piscine de vomi pour y mourir.
Parce que sans trop en dévoiler, déjà, ça permet de relier la plupart tous les scénarios. Mm-hmm. Et d'ailleurs là, il faut lâcher l'info juste après les trois petits points, et dans n'importe quel sens. C'est là où ça devient fort, c'est que c'est pas une aide de jeu point A, point B, c'est une aide de jeu point X vers le point Y, sachant que X et Y peuvent être récupérés dans des ensembles définis de A à Z. Donc, c'est pour ça on a vraiment pris notre pied à faire cette campagne, pas à faire cette campagne, mais à refaire cette campagne. Et c'est ces petites choses-là qui, franchement, risquent de décupler votre plaisir, parce que je pense qu'en tant que gardien, vous allez franchement forcer pour que vos joueurs la trouvent. Parce qu'en plus, elle est différente dans ses différentes approches, dans ses différentes parties. Elle est personnalisée à chaque scénario. Elle rebondit sur différentes choses. Elles sont, parce qu'on les appelait comme ça, elles sont excessivement ouvertes. Hein. Faites attention, c'est la porte ouverte à un nombre de scénars à côté assez
Elles sont
monstrueux.
de 40 à 120 séances.
Exactement.
J'ai testé déjà avec mon groupe un peu en exclu
Ah ouais?
pour lâcher le morceau, hein, mais vraiment dose homéopathique.
Et alors?
On a failli arriver, enfin, on a failli faire des ouvertures
Monstrueuse.
un peu incontrôlées. Bon, mais finalement ils se sont restreints, ils se sont dit bah non, bon, ne partons pas dans cette direction, c'est sûrement une quête annexe.
C'est vrai que alors notamment celle-là, mais il y en a un paquet d'autres qui ont été rajoutés, et un paquet de choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est le genre d'aide de jeu que vous avez envie de trouver dans une campagne, quoi. Vous dites voilà, ah merde, je suis en manque d'inspi, ou j'ai un problème dans la linéarité du scénar, ou j'arrive pas à envoyer le scénar suivant et tout. Si vos joueurs ont accroché ce genre d'aide de jeu, c'est du caviar. Il suffira de leur rappeler le titre de l'aide, et puis c'est bon, vous êtes reparti pour une séance entière. T'as aussi bossé sur pas mal d'aides de jeu un peu, alors là plus contextuel, de
Grande, oui.
voilà, pour donner du fond et des choses comme ça. Alors voilà, ça c'est pas lâcher le morceau de parler des d'articles de presse, ce genre de choses. Et
Oui,
là
c'est sûr
aussi,
que
même chose,
c'est
on a
un
essayé de
aide.
faire la profusion pour perdre un peu les joueurs, quoi.
Oui, complètement, oui. Ouais, les aides de jeu, encore une fois, sur lesquelles j'ai bossé, et avec un grand plaisir, hein, reste quand même assez cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que c'est bien si on les trouve, mais elles sont
Voilà.
totalement indispensables. Et ça
Ouais.
rejoint bien ce qu'on disait tout à l'heure. Vous pouvez jouer sans aide de jeu. Certaines aides de jeu dans la campagne des Masques du Nahal-Hôtep sont quand même très importantes à trouver. C'est beaucoup de choses. Et en même temps, elles identifient de manière claire une piste, ou bien une personne, ou une intrigue, ou une explication.
Et
D'autres sont joyeusement
dispersé, enfin ventilé comme ça pour
dispersées, ventilées, et surtout non indispensables. Enfin, elles sont dispensables. Et c'est ça qui est agréable, c'est ça. Disons, ça renforce le cœur de la campagne. C'est justement en proposant des choses qui ne servent à rien que souvent les gens se disent waouh, c'est génial.
ils vont s'en
On nous a
souvenir le
pas
plus,
seulement
ouais.
on n'a pas seulement le chemin balisé avec les flèches qui disent là, là, cette personne, etc. Mais en même temps, on a plein de choses dans lesquelles on peut se perdre. On va devoir sélectionner, donc on va devoir faire des choix intelligents, on va devoir faire des choix d'intrigue. Et en
Ouais.
même temps, ça donne un charme fou à la campagne,
Et
quoi.
là, et en plus, alors là, accrochez-vous à vos écouteurs, c'est que pour les aides de jeu, en plus, on vous les a triés, c'est-à-dire qu'on vous a précisé lesquels étaient vitales et lesquels étaient d'un niveau moindre, ce qui fait que vous n'êtes pas obligé non plus de vous prendre la tête à vous dire lesquels je vais virer, lesquels je vais garder. Vous avez déjà des guides qui vous diront, celle-là, il vous la faut absolument, parce que voilà, c'est un lien vital. Par contre, celle-là, voilà, c'est un plus. Mais c'est assez marrant, parce que c'est finalement souvent les plus dont on se souvient davantage en sortie de campagne, en se disant, ah ouais, arrête, tu te rappelles cette de jeu-là, ouais. Ah ouais, ah mais c'est vrai que ça servait à rien, ouais. Ah mais putain, mais c'était énorme. Et je pense qu'à ce niveau-là, pour la facilité pour le gardien, justement, ce qu'on disait, de rendre les campagnes plus accessibles à notre époque où faut que ça aille vite. Là, voilà, quoi. Si vous savez bien mettre des choses dans les pattes de vos joueurs, vous leur casez la plupart des aides de jeu qu'on vous a donné dans les masques, et c'est bon, quoi. Chaque début de scénar, ça va être ce que je vous disais, c'est, bon, alors, on sait où est-ce que, bon, il faut qu'on aille voir ça, 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 et puis après, on dira, enfin, ça sera du caviar. Après, vous aurez juste à déposer 2-3 PNJ de temps en temps, et puis voilà, à décrire, et le lien se fera de lui-même, sachant qu'en plus, elles sont utilisables, enfin, on vous les a fait. On a essayé de les faire assez génériques parce que voilà, des trucs à la con qu'on s'est dit, c'est que par exemple, votre campagne, vous voulez pas la faire en 1924, vous voulez la faire dans les années 40. Bon bah si toutes les aides de jeu, elles sont estampillées années 20, bah c'est mort. C'est-à-dire que vous allez vous faire chier. Alors qu'on a essayé, vous verrez pour certaines aides de jeu, de vous faire des aides de jeu typiques mais génériques. Exactement, voilà, enfin un truc détaché de l'époque, vraiment de se dire, on fait comme on fait toujours sur Toc, on fait pas de l'historique, on fait de l'historico-poulpique et voire du poulpico-historique, donc de vous donner des points d'ancrage, mais que ce soit pas figé, quoi, que ce soit pas en vous disant, bon bah ça non, moi je pourrais pas l'utiliser dans le cadre de ma campagne parce que ça cale pas, je l'ai pas mise au bon endroit ou quoi que ce soit. Enfin, l'aide de jeu dont on parle là, enfin les aides de jeu dont on parle là, bah c'est toi Yoda qui avait le plus bossé d'ailleurs là-dessus, sur la partie de ces aides de jeu là. On les a même d'ailleurs pour se dire, parce qu'on se disait que les masques étaient linéaires à l'origine, on a même fait des putains de tableaux de Sarras maudite des bois en se disant voilà tous les indices, les aides de jeu qui y aura normalement déjà pas mal de ces choses-là dans les masques hein, qu'on vous a reproduits, mais de se dire voilà qu'est-ce qui mène à quoi, de là je vais où, telles aides de jeu mènent où, enfin franchement c'est moi qui suis le roi de l'affiche quand je prépare un scénar, là il y a des choses, c'est carrément des fiches clés en main quoi. Et c'est vrai que c'est, enfin, à côté de ça, le pied, ça va être juste pour vous de préparer les PNJ si vous êtes gardien et de jouer votre jeu, joueur, enfin, de jouer votre personnage et de suivre l'intrigue et de la dérouler de A à Z si vous êtes investigateur, quoi, à ce niveau-là, ça va être vraiment du pur bonheur.
J'ai hâte de la faire rejouer.
Ouais, c'est vrai que moi aussi je commence à avoir un peu hâte. Bon, à l'heure actuelle, on est le 7 janvier déjà. Ouais, on est le 7 janvier, donc on est incapable et on le sait même pas nous quand est-ce que ça sort précisément. Ça doit être au printemps 2012 normalement, enfin je pense dans ces eaux-là. Et d'ailleurs, ce petit délai en vient à un point qu'on souhaitait traiter dans ce podcast, qui est le côté professionnel dans le jeu de rôle. Toi, c'était un peu comme nous aussi, c'est ta première incursion dans le domaine professionnel du JDR, c'est ça, Steve?
Oui, complètement, ouais. C'était la première fois. Il se trouve que c'était la première fois.
Ou ça allait être édité au sein d'une production commerciale?
Oui, exactement, ouais. Mais disons, c'est une surprise. C'est un paramètre qui est agréable, mais qui n'était pas vraiment fondamental. J'étais plutôt attaché à la collaboration avec les individus, hein. Donc c'est vraiment, j'avais envie de voir ce que ça pouvait être de bosser avec vous, de bosser avec les gens de Sans Détour, de rencontrer les personnalités, les talents. C'était surtout ça,
L'idée fondamentale, ouais.
l'aspect. Et disons après le nom sur le bouquin, c'est une petite fierté.
C'est le retour de la cerise, quoi.
Voilà, c'est ça le retour de la cerise. Peut-être sous le gâteau, hein, cette fois-ci, encore une fois. Le petit plaisir coupable, enfin presque coupable qu'on ressent à avoir son nom sur du vrai papier, mais quelque part, le plaisir est déjà bien avant. Hein. C'est vraiment
Voilà.
la collaboration, c'est vraiment arriver à pondre des choses qui sont exigeantes et dont on a une certaine fierté,
Ouais.
puis se dire voilà, en même temps, il y a l'autre aspect, derrière le plaisir personnel, il y a l'aspect, on est déjà en train de rire, disons, mais totalement positivement, de sourire en disant, mais ils vont s'amuser comme des petits fous.
C'est clair.
Enfin, on espère, hein, mais c'est cet aspect, c'est un peu comme quand on fait un plat, quand on cuisine pour des gens qu'on aime bien.
On se fait plaisir avant.
Voilà, on fait un super truc, qu'est-ce qu'ils vont bien aimer? On espère en tout cas. Et ça, je pense que ça a été rempli, hein. On est encore en post-prod sur pas mal d'aspects livre,
Ouais,
en fait.
à l'heure où on parle, ils bossent sur la mise en page du côté de Sans Détour,
Ouais,
donc ils sont en
sur la
train.
maquette. Et
Ouais.
mais disons, je pense que déjà à ce niveau, on a une fierté et une impatience à faire découvrir au public.
Parce que en plus, on sait qu'on s'est mis dans des conditions pro parce que on avait des délais, on faisait des points, enfin, je veux dire, l'intérêt, c'est qu'on a vraiment bossé de façon tout à fait professionnelle, au maximum hein, de ce que nous donne, je dirais, notre temps libre, quand même. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, ce qui moi aussi de mon côté m'a plu, c'est qu'on s'est aperçu que même face à un éditeur professionnel, sur Toc, entre nous, on est tout à fait professionnel hein, pour le monde du jeu de rôle. Il faut pas vous faire d'idée, hein, ce sont pas des magnats de la presse ou alors des grands entrepreneurs, hein, c'est du fait main, c'est du délai qui saute, enfin vous le savez tous hein, si vous suivez un peu la production de JDR. Bah, rien que pour vous, l'intérêt, c'est que nous, pour notre première production, on était dans les temps, quoi. On nous a demandé de le rendre à telle date. La date donnée, on a envoyé les épreuves, enfin les fichiers textes. Et c'est vrai que c'est aussi assez satisfaisant de se dire que ben voilà, on peut mener à 5 personnes qui nous sommes pas vues pendant tout le déroulement du projet. On a réussi à tout à fait gérer le truc ce qu'on disait hein, dans les poulcas, peut-être en appliquant des méthodes qu'on applique au boulot, hein, c'est-à-dire que si on n'avait pas tous été rigoureux de par nous-mêmes, on sait que ça aurait pas fonctionné de façon aussi rigoureuse dans ce projet-là, parce qu'on applique toujours hein, un peu gérer nos pratiques à toutes nos activités, et c'est vrai qu'à 5 bien organisé et puis bien bosseur et puis bien, je dirais, bien pris par le sujet, ça a marché tout seul, quoi.
Ouais, je pense que il y avait un grand enthousiasme derrière et qui n'a pas été noyé. On s'est pas perdu dans notre enthousiasme. On a su rester aussi carré, faire des choix arbitrés.
Très juste, ouais, on n'a pas dépassé les bornes.
Ce que je trouvais aussi remarquable dans cet orga, hein, pour continuer avec la boîte à cirage, mais
Ah, ça
il faut le
brille!
dire, c'est-à-dire que moi je suis arrivé sur le tard, donc j'ai pas participé au gros de la refonte que vous avez accomplie. J'ai pu voir avec un petit peu de recul comment vous fonctionnez. J'ai aussi senti vraiment une autocritique, une recherche de remise en question, un fonctionnement par remise en question qui était vraiment constructif. Et ça m'a surpris. Je trouvais que c'était vraiment une bonne chose. C'est-à-dire que de temps en temps, quelqu'un revenait sur un truc qui venait d'être fait. Ben,
Ouais.
ça n'ira pas parce que si, parce que ça. On n'a pas hésité à sacrifier du bon travail ou à remettre
Voilà.
du bon travail
C'est vrai.
parce qu'il y avait. Il y avait vraiment le pic d'achèvement qui était là. On voulait faire quelque chose, vous vouliez faire quelque chose qui était
On voulait, ouais, tous
aussi
ensemble. Ouais. Mais
Alors, tiens,
c'est très juste ça.
pour terminer dans le cirage, je peux
Ouais.
vous dire, avec un regard extérieur, quand je suis arrivé, donc on m'a donné les clés de la maison, on m'a dit, voilà,
Regarde.
regardez un peu ce qui est fait, comment ça a évolué, et puis derrière, tu vois comment tu te positionnes sur la tête de jeu, etc. Ben, j'étais assez sur le cul. Je me suis perdu, j'étais perdu
Je veux la rejouer.
dans un marécage de sourires en regardant les choses et je regardais les gens qui habitent avec moi, hein, donc ma famille, tu te rends compte, mais ils ont fait ça, mais c'est pas possible. Oh non, ils ont pas. Et il y a certaines choses qui ont été rajoutées, qui ont été pensées de manière très 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 intelligente, dans la petite clé en main, prêt à jouer, zéro blabla, enfin zéro.
Si moi j'ai un exemple
Vraiment.
sur j'ai un exemple sur ta participation et quelque chose qui représente un peu notre optique. C'est que si par exemple dans une campagne vous avez je sais pas vous entrez dans un café enfin non pardon vous entrez dans une bibliothèque et on vous dit que voilà il y a 5 ouvrages qui parlent du sujet qui intéresse votre joueur sur le moment, donc vous questionnez. Et en réalité, il y a un ouvrage qui est décrit dans la campagne, et les 4 autres, on vous donne les références et quoi que ce soit. Et voilà, dans la campagne de Gérer les masques avant, on vous aurait dit, voilà, il y a 4 ouvrages, voilà le nom de l'auteur et point barre. Alors que là, moi j'ai en tête, hein, mais je pense que tu as la même en tête, ça concerne 5 personnes. Voilà, on vous parle de 5 personnes, et ben les 5 personnes, vous allez pouvoir les jouer. Vous allez même gérer en poussant un tout petit peu le bouchon, vous allez pouvoir faire 5 scénarios si vraiment vous êtes chaud. Vous
ou
allez,
l'ignorer complètement même. Hein,
voilà, vous avez 5, exactement, vous avez 5 départs d'idées. Voilà, c'est dans les masques, on a essayé pour tout ce qui tournait autour de la campagne de se dire, fini la liste en pointillé. Vous avez du matos, vous avez du petit paragraphe pour chaque point intéressant, et vous allez pouvoir partir dans tous les sens. Quoi. Avec les aides de jeu, avec les PNJ, avec les localisations, avec les, enfin, vous allez pouvoir, enfin, avec les aides de jeu historiques, les références, les ouvrages, les journaux, la façon de vivre, la façon de compter, la façon de parler, la façon de... Enfin, franchement, c'est, moi, je vais la faire jouer, ça, c'est sûr. Je veux la rejouer.
Ah, j'ai distribué les
tickets. Non, mais c'est clair, en plus, c'est une campagne mythique, tout ça, donc on l'a tous en tête, et la refaire... Juste pour la refaire, bon, je me serais dit, ouais, ok, je vais essayer de... Et je pense que de moi-même, j'aurais à nouveau fait des modifs. Mais là, ce qu'on essaie de vous apporter, c'est, ben voilà, on a fait les modifs pour vous. Elles seront pas toutes là, les modifs que vous attendiez. Mais franchement, on vous en a filé le plus qu'on pouvait dans les délais et avec le nombre de caractères aussi imposés. Hein, fallait pas que ça fasse 9000 caractères. Mais vous avez tout, quoi. C'est-à-dire que... Normalement, on a fait notre possible, quoi, pas notre maximum, parce qu'on n'arrive jamais au max, mais on a fait vraiment pas loin du max et le plus qu'on pouvait faire dans ce timing-là et dans ce cadre-là, quoi. Je pense qu'à ce niveau-là,
je pense aussi qu'on a des ambitions de suivi sur la campagne, sur les aides de jeu et sur le reste directement depuis TOC. Mmh. Je trouve que c'est aussi quelque chose d'intéressant dont les meneurs de jeu, en tout cas, pourront bénéficier via TOC. C'est-à-dire
voilà,
que lorsque vous avez des problèmes avec la campagne, des problèmes avec les aides de jeu, ou si vous souhaitez maintenant, dans une certaine mesure, reprendre, réaménager certaines aides de jeu, vous pouvez venir sur TOC, vous pouvez en discuter avec nous, et on peut dans une certaine mesure, répondre à vos attentes, partager, échanger, vous dire dans quelle mesure... Enfin, je pense qu'il y a une disponibilité...
Ah oui, c'est clair.
Qu'on souhaite établir et
puis même documentaire, parce que on a les documents, on les a mis en place et tout ça, ils seront dispo en PDF, donc ce qui fait que enfin la campagne, le fait qu'on l'ait fait à notre petits oignons en pensant à on était 5, donc ça fait quand même pas mal d'oignons, donc pas mal de possibilités, mais si nos petits oignons ça vous convient pas et vous avez envie de rajouter un petit peu d'ail ou de la ciboulette.
Oh oui,
des boulettes, ça fait rôter. Ah non, c'est là qui fait péter. Non, bon, enfin. Et le fait est que c'est vrai que vous pouvez rajouter et vous aurez le PDF, vous pourrez même avoir les versions Word des aides de jeu, tout ça. Et ben voilà, vous rajoutez ce que vous voulez. Et enfin, là vraiment, c'est là où on passe de la campagne des années 80 à la campagne des années 2010, mais principalement par les moyens techniques, quoi. C'est-à-dire que voilà, à l'époque, quand vous alliez acheter chez votre bon crémier votre campagne, bah vous rentriez chez vous, puis c'était point barre, quoi. À la limite, vous prenez les encyclopédies de papa maman et vous les posiez à côté de vous, oui, avec les 10 volumes en disant,
putain.
Ah ouais, pourvu, je trouve ce qui m'intéresse et tout. Puis là, oh merde, le nom du bled, il n'existe pas. Oh putain.
Photocopier en douce les illustrations
voilà,
à l'école ou au lycée. Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est qu'un pranga, enfin,
hein. Le photomontage et tout avec... Bon, ça doit se rapprocher de ça, je sais pas trop et tout. De par ce podcast là qui est en train de se terminer, vous avez bien entendu que nous sommes des gens qui sommes toujours en recherche d'informations, de matériel, ce genre de choses. Donc, vous imaginez bien qu'on s'en est servi pour monter la campagne, quoi. Donc, je pense que vous n'aurez pas énormément de trucs à rajouter. Donc voilà. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter de ton côté, Steve.
Non, rien de particulier. C'est
une
question de travailler sur ce projet avec vous. Et puis,
ah, on s'est bien éclaté. Hein.
Ouais. C'était vraiment un plaisir.
Alors, soyez pas impatients, hein, parce que la prochaine campagne sur laquelle on bossera autant, je pense qu'elle est pas prête d'être là encore, parce que c'est quand même vachement de boulot. Par contre, ponctuellement, ou sur les aides de jeu, ou ce que disait Steve, sur l'aide qu'on peut fournir, ça, il y a aucun souci, on est toujours dispo. Et au contraire, je dirais... pour ceux qui connaissent TOC, vous le connaissez pour la plupart, on est toujours à l'écoute des critiques et tout ça, hein, et on modifie, on ajoute en fonction. Et là, ce coup-ci, vous aurez les auteurs sous la main et vous ne serez pas devant qui que ce soit, une maison d'édition, quoi que ce soit. Vous aurez des gens en direct, donc il n'y a vraiment aucun problème. Son détour est accessible, hein, mais nous, enfin, on l'est plus. Et puis, je vous rappelle qu'on vous a soutenu pendant toutes ces années. C'est beau. Et donc, ah si, pour finir, il faut quand même qu'on vous souhaite, parce que même si, ouais, normalement, il devrait être produit assez tôt, parce que avec notre campagne de pub pour les masques, on va vous souhaiter une bonne année.
Une bonne année.
Une bonne année Poulpic, parce que bon, il y a du matos qui va sortir. En plus, il y a profusion de médias, de nouvelles choses qui sortent de partout. J'ai même vu que Toulouse arrivait chez Bragelonne et tout, qui vont sortir un bouquin illustré par Goumi. Enfin, ça.
Sur
Sur le
la
mythe.
commune, ça. Ouais.
Ouais, j'ai vu ça, ouais. Et donc, bon. Toc, vous savez, alors là, le début d'année a été assez festif, point de vue scénar et tout ça. J'avoue qu'on s'est un peu lâché. Mais disons qu'il y a, avec les masques qui arrivent, avec le nouveau Cassius Belli et qui est au top, avec tout ce qui se passe, je pense que, bah, avec Toc qui va continuer, hein, vous inquiétez pas. Je crois que, ah, je me demande si c'est pas un anniversaire cette année, l'anniversaire de l'enregistrement de l'association au journal officiel, je sais plus. Bon, on fera peut-être un anniversaire. Ah, il y a toujours le concours, hein, qui court. Alors, je sais pas si ça sera diffusé avant que le concours soit fini, mais il y a le putain de concours avec les PNJ.
Le groupe de personnages, ouais.
Voilà, et puis en plus il y a du beau matos à gagner. Et puis bon, on a nous de notre côté quelques infos sur la version des masques donc, qui va sortir, hein, la version normale. Et franchement, ça va défoncer, ça va défoncer du dol. On va essayer de refaire de la plus de production côté toc. Maintenant, ce sera plus facile, hein, comme vous avez pu le voir en début d'année, hein, maintenant qu'on a plus les masques sur le dos. Et puis poursuivre les partenariats comme avec ton site, Steve, ou des choses comme ça. Parce que bon, il y a plein de choses qui arrivent de partout. Et notre but reste de fédérer.
Entièrement. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit appel du pied, ou en tout cas le prolonger, au site Script. Alors là, je parle en nom de quelqu'un, hein, mais j'ai pu remarquer un certain nombre d'articles qui étaient pondus sur Script, qui sont très intéressants, des articles de background, d'époque, ça parle de lance-flammes, ça parle de beaucoup de sujets très
Les
intéressants.
colonies.
Oui, et
Ouais.
qu'attendons-nous pour reprendre l'info sur Toc, pour faire de la pub, parce que
C'est vrai.
encore une fois, il s'agit pas de s'approprier le travail des autres, il s'agit vraiment de centraliser des informations qui sont pertinentes et de qualité à un même endroit, quitte à la reproduire à d'autres endroits, il n'y a aucun problème, je pense,
Ah
toujours été comme
oui.
ça et toujours été votre politique,
Ouais.
mais au moins d'en garder une trace sur Toc.
Ah, mais script,
J'avais
ouais,
déjà,
c'est script avec plein de i, hein, c'est ça?
oui, c'est ça, j'avais
Ouais.
déjà soumis l'idée à la personne qui avait écrit l'article. Je ne sais pas si mon commentaire était passé vraiment perçu, mais ça serait chouette de reprendre ça sur Toc. En tout cas, moi, vu la qualité des articles, je pense que vraiment ils ont leur place, et
Ah, c'est une très bonne
ne
idée.
serait-ce que parce que c'est une porte d'entrée des gens qui cherchent des informations sur Toc, pardon, sur Toulouse. Et
Ouais.
voilà, donc un petit appel du pied. Ce serait chouette d'avoir aussi vos articles sur Toc. Je
Ouais,
pense qu'ils ont carrément leur place.
je vais les mêler, ouais, c'est vrai que c'est très intéressant. Et puis en
Oui.
plus, il y a pas mal de sites fédérateurs pour les flux RSS. Je l'ai plus en tête. Il y a un site qui référence tous ces sites-là. Attends, je suis en train de le retrouver. Tagadagadec, ça s'appelle.
L'instant, je vais peut-être juste parler encore d'autres sites qui
Ouais.
proposent des aides de jeu qui sont intéressantes. Alors, pas nécessairement pour Toulouse, mais qui font vraiment des tests et qui font des rendus, qui proposent du matériel à télécharger en ligne et de qualité. J'en ai repéré quelques-uns, sans parler de Toc, sur lesquels on trouve beaucoup d'aides de jeu. Je voulais parler aussi de Scriptorium Ludique,
Oui.
qui est un site qui est vraiment qui ressemble vraiment à un certain nombre de collaborateurs talentueux, et qui propose des aides de jeu souvent PDF à télécharger et imprimer, qui sont vraiment de qualité, autant sur du système que d'autres aides de jeu. Bon, on avait parlé aussi de script, j'en reparle maintenant.
Il y a Planète JDR, c'est le site Planète JDR, c'est le
Ah oui,
site
Planète JDR, mais
qui
ça c'est.
rassemble tout là.
Oui, alors Planet JDR, c'est effectivement, ça répertorie les news de tous les sites qui sont enregistrés dessus. C'est une sorte de portail mainstream sur l'actu des sites de JDR.
Ouais.
Je crois que c'est
Vachement
intéressant. Ouais.
intéressant ça, parce
Ouais.
qu'on rate pas grand chose avec Planète JDR, il référence un peu tout.
Après aussi sur les aides de jeu, il y avait ben, le portail JDR Passion, sur lequel on trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aides de jeu qui sont répertoriées, souvent aussi par gamme, qui est très intéressant. Dans un autre genre, j'avais aussi envie de faire un petit clin d'œil au studio Gobzink pour ses aides de jeu et vraiment pour son travail, comment dire, novateur.
Bah c'est cool. Et je dirais même, et alors là on va dire que je suis vraiment un gentil, mais le SDN, le site de l'Elfe Noir, semble prendre une super orientation. Enfin pour le moment, vu qu'ils ont changé de bureau et tout, ils partent un peu dans tous les sens et ça devient assez intéressant. J'ai regardé, il y avait un ou deux articles déjà pour l'appel de Cthulhu. Et c'est vrai que ils ont pris une bonne. Enfin, ça, pour moi, ça prend une bonne tournure et ça s'oriente vers un vrai portail fédérateur et pas juste pipi cacapoute dans les forums. Qu'est-ce qui a la plus grosse et qu'est-ce qui a un boulot qui le rémunère pour poster tous les jours sur les forums. Non, ça devient vraiment intéressant et apparemment, ils ont mis des chefs de rubrique qui sortent les doigts. Donc, non, ça bouge. Moi perso en plus je suis plutôt un réac, donc quand les trucs deviennent vraiment intéressants et que je m'abonne à leur flux, c'est vraiment il y a du plus. Et vraiment il y en a. Alors moi je suis pas fan hein, du jeu de rôle amateur ou des choses comme ça, parce qu'en plus maintenant il y en a tellement que ça devient galère à savoir à quoi jouer. Mais par contre au niveau des sites d'information, d'articles et ce genre de choses, il y a vraiment des grosses références maintenant, comme tu disais, Scripps, Skeeton Ludique, Planète JDR, des trucs comme ça, jeux de rôle passion, enfin bon, on commence à en avoir un paquet qui vous balance un peu des articles un peu qui font réfléchir quoi, des choses un peu plus poussées quoi.
Et aussi de très bonnes initiatives, je pense qui gagnent à être connues dans la sphère indé ou dans la sphère du JDR amateur. Comme tu disais, il y a beaucoup de choses qui sont dispersées, mais il y a aussi des endroits où on rassemble les informations. Je pense qu'on pourrait peut-être en discuter une autre fois, mais
C'est cool, nous
j'ai
allons
autre chose à
avoir
dire.
c'est le retour des poulpcasts. Mais on pourra faire un poulpcast numérique où on parlera uniquement enfin du web et des sources d'inspi et ce genre de choses. Hein. Ça peut être tout à fait aussi probable. Mais, oui?
Non, le nom revenait en fait. Je pensais à Silent Drift, qui est un lieu d'expression enfin, privilégié pour les gens de l'Indé.
D'accord.
Il y en avait encore un autre, mais le nom m'échappe. Je crois que ça s'appelle Je sens des ou un truc de... Enfin bon, on reviendra avec de bonnes références.
On va essayer de vous les rassembler tous et puis on vous fera un melting pot, histoire de pas faire ce qu'on veut pas qu'on vous disait au début, de perdre des liens et puis s'en rappeler. Bon bah sur ces bonnes paroles, on va terminer donc ce troisième Poulpcast dédié au masque de Nahatotep, en espérant que la nouvelle saison 2012 des Poulpcasts soit un peu plus dense que la saison 2011. Je me demande s'il y en a eu un, je sais plus trop. Mais donc voilà, merci à Steve.
Merci à toi.
Tu reviendras peut-être un de ces jours, hein, parce que, enfin, comme tu sais, maintenant la toque cave, t'es grande ouverte et tu as ton petit bol avec ton eau et puis ta petite assiette avec le bar assis comme nous
Avec grand
tous.
plaisir, j'emmènerai du poulpe frit.
Voilà. Et puis pour les autres, on vous dit à la prochaine et puis surtout, hein, attendez la sortie des masques j'irai bon en plus bon. Fin 2012, c'est la fin du monde, donc que ce soit votre dernière campagne, quoi. Que vous restiez sur un bon a priori.
Ouais, ça me semble cool comme ça.
Et puis sur ce, Fungluer les poulpes et Fungluer les poulpettes.
Bye bye.